Rádio Xuba.
Rádio Xuba.
Rádio Xuba.
Rádio Xuba.
Bonjour, bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue donc à cette nouvelle édition de Radio Stube. Alors évidemment une émission un petit peu placée sous le signe, je dirais pas du deuil, mais de la mélancolie, de la tristesse, avec quand même une pointe quand même d'espoir et de passion qui est toujours là, qui nous anime toujours. Vous avez tous suivi évidemment ce qui s'est passé à Montpellier, ce qui s'est passé à Boulogne, ce qui s'est passé il y a quelques heures, quelques poignées d'heures, quelques dizaines d'heures. Le Racing qui reste taqué, le Racing quatrième, le Racing qui... finalement reste en deuxième division pour un an au moins. Voilà, donc les raisons d'un échec, on va essayer d'analyser tout ça, de discuter de tout ça et de voir un petit peu pourquoi, le pourquoi du comment. Pour en parler, il était à Montpellier, il était émotionnellement marqué comme nous tous à la fin du match, Conan.
Oui, donc, très honoré.
Très honoré de quoi?
Bah d'être là.
Bah t'es toujours là donc en même temps.
C'est vrai, je suis d'autant plus honoré.
Donc il est encore honoré. Est-ce que tu as récupéré émotionnellement
Non, ça c'est des images qui resteront gravées à jamais dans notre mémoire.
Bah on va en parler dans quelques instants. Il était là aussi à Montpellier, Gigas, qui va suspendre sa revue de Stube pour une fois.
Jusqu'à que le Racing remonte en Ligue 1, il n'y aura plus de revue de Stube.
Voilà, donc c'était une image forte, qui gosse toujours très marqué, un ou deux jours après, je ne sais même plus, on compte même plus les heures, là, les jours, le temps s'est arrêté. Hein,
les jours, jusqu'à la prochaine remontée.
Jusqu'à la prochaine remontée, donc voilà, un Gigas qui proteste de cette manière-là. Petite nouvelle apparition, donc un peu dans des circonstances difficiles, mais en tout cas ça fait plaisir de l'avoir. C'est La Lanterne, donc on va t'appeler Marc plutôt que par ton prénom, donc sur le Stube, en tout cas c'est La Lanterne. Donc le pseudo Marc, ou plutôt l'inverse.
Ouais.
Voilà, est-ce que.
Ouais. C'est ça.
Tu étais à Montpellier aussi, parmi nous.
Ouais.
Un petit mot.
Bah déjà, très content de faire cette première émission. J'aurais préféré que ça soit dans des meilleures conditions, effectivement, comme tout le monde. Mais sinon, le match, très peiné, très triste. Je m'en remets à peine encore.
T'es encore meurtri.
Voilà.
D'accord. Bah. De toute façon, ça s'efface pas en un jour comme ça, c'est normal. Et elle revient. Elle n'était pas à Montpellier, mais elle a vu le match. Donc ce sera un petit peu le point de vue externe, on va dire, à ce tumulte d'émotions qui nous a vraiment envahi à Montpellier. Enfin, elle a quand même souffert en voyant ça. Niki.
Oui, bonjour tout le monde.
Ça va?
Ça va, ouais, enfin, ça allait déjà mieux.
Comment? J'ai pas compris.
Ça allait déjà mieux.
Ça allait déjà mieux, j'imagine. Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, voilà, on va quand même te laisser la parole plus tard pour voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on comptait sur toi pour nous monter le moral, nous qui. Bon, ça. Ok. Oui.
T'as pas une corde?
Non, j'aime pas de ficelle en fait. Faudra que je m'achète ça une fois
pour les assassins de ton club.
Non, qu'on puisse se pendre.
Ouais. Bon. Tu voudrais. Bon. Écoute, on est quand même un club mythique, donc on va.
Il y a le balcon si vous voulez vous jeter dessus.
On peut se défenestrer effectivement.
Ah, c'est cool.
C'est possible. On est au troisième étage, donc là il y a.
On peut se suicider avec du très mauvais vin ou de l'alcool de mauvaise qualité. Tu veux en avoir, Paolo, un peu.
Ouais.
Dégueulasse.
Mais... Genre, j'ai encore un fond de rhum effectivement, pas très bon qui traîne.
Rome qui enterre les derniers espoirs de Torino d'ailleurs.
Oui, le Torino effectivement cet après-midi, merci d'en parler, de remettre une couche, le Torino qui descend en série B pour mon plus grand malheur, enfin bon c'est un petit peu l'année noire. Mais en tout cas ce Rome qui a effectivement fait Lens, qui a fait Strasbourg-Lens, Lens-Strasbourg, Strasbourg-Montpellier et Montpellier-Strasbourg. Donc il est toujours là, si vous en voulez, vous me faites signe. On va peut-être commencer, oui.
Faudrait peut-être l'achever, hein. C'est peut-être lui le chat noir. Là.
Peut-être le Rome effectivement, la cause des malheurs du Racing.
C'est lui qui nous fait descendre.
Peut-être. Mais en tout cas, nous allons éviter de trouver des faux fuyants comme ça pour éviter de parler des vrais problèmes finalement, des vrais...
La qualité de ton Rome.
De ce qui s'est passé. Montpellier-Strasbourg, donc un match horrible, on peut le dire, hein, pour nous tous, notamment ceux qui l'ont vécu sur place, hein, pour les autres aussi. Sur le match, voilà, je sais pas, donc je lance le débat sur Montpellier-Strasbourg, le match, qui veut prendre la parole pour commencer à commenter ça? S'il y a quelque chose à dire, oui, Conan.
Je me lance, hein, le scénario catastrophe, hein, qui s'est déroulé. On devait tenir le nul, 0-0, au bout de 16 minutes, au bout de 16 minutes, il y avait déjà 2-0, je crois.
19 minutes. Hein.
19 minutes, 2-0, donc voilà, une équipe de Strasbourg incapable de jouer le Catenaccio, hein, qui était réclamé par certains intervenants la dernière fois. Et un Racing qui a quand même réagi, hein, qui a réduit le score fin de mi-temps, qui a raté un pénalty malheureusement, qui aurait pu complètement prendre l'eau si on n'avait pas eu un peu de chance, hein, sur 2-3 poteaux, sur un hors-jeu qui était plus ou moins pas. Et à la fin, on a deux balles de but, hein, qui auraient pu faire exploser le parquage visiteur, et malheureusement, c'est pas rentré. Et donc on est quatrième, hein, la place du cocu, la place du con.
La place de 3.
La place de 3.
Ouais.
L'année dernière.
Effectivement.
Et il y a 2 ans, tu sais qui c'est qui a fini quatrième ?
Vas-y.
Amiens.
D'accord.
Les deux clubs sont en national aujourd'hui, de bon augure pour la suite.
Sachant qu'il y a 4 ans, mais c'était Beauvais qui a fini quatrième, il me semble.
Non, pas 4 ans, c'était...
C'était 5e, puisqu'il y avait 4 équipes qui...
C'était 5e, oui, c'était l'année où on était, était remonté.
Il y a 16 ans, c'était pas le Havre.
Il y a
un point du podium.
Non, le Havre, ils étaient lâchés. C'est Amiens qui a fini à un point du podium. Du polonium, avec l'entraîneur, je sais plus qui c'était.
Battini,
non ?
Non, le Bonnevet, c'est... Moi, je crois
pas, que c'était pas Battini, qui avait pleurniché sur les pénalties.
Ah oui, c'est ça.
Qui ont soufflé tout le temps. Et ben voilà, on voit où ils sont à Amiens aujourd'hui. Hein.
Sur le match, de nouveau, Gigos peut-être. Montpellier-Strasbourg. Ton point de vue. Voilà. Pas d'idée. Tu passes ton tour.
Horrible, j'ai pas vraiment de souvenir du match en plus. À part Babu d'avoir vu des gens pleurer.
Bon, ça, on y reviendra.
Hein. Ouais.
Oui, il faut parler plus fort, ouais. Tu comprends qu'on n'a pas envie de...
Oui, mais c'est pour les gens qui écoutent. Hein,
on a encore des trémolos dans la voix. Quoi.
Je veux savoir combien de radio-auditeurs, radio-stubeurs se sont suicidés depuis vendredi.
Bah, si vous êtes suicidé vendredi, faites-nous signe.
Déjà, Fidelio ne s'est pas connecté depuis 2 semaines.
Ok, bah, Fidelio, la première victime peut-être alors.
C'est suicidé préventivement.
Ah, préventivement.
Marc, sur le match.
Bah un peu comme Gigas, je pense qu'on était dans un ange, on était dans un monde à part pendant le match, je pense. Enfin, en tout cas, personnellement. Donc, avoir un point de vue sur le jeu, les joueurs, ça va être dur. Bon, bah, moi, je pense que la montée de jouer contre Reims, c'est-à-dire, ça aurait dû être le match de la montée. Donc, prendre quelques points en plus un peu avant, pour moi, c'était de toute façon très compliqué de gagner à Montpellier. Même le nul, j'y croyais pas vraiment.
Ouais, c'était très con de dire depuis le début de saison qu'on allait jouer la finale pour la montée à Montpellier de la part de Furlan. Parce qu'en fait c'était suicidaire, enfin, on s'est un peu caché, tout le monde se disait ouais, on va prendre des points, mais bon, finalement on n'a jamais été en position de gagner ce match. Parce qu'on ait joué à la 5e journée ou à la dernière, on n'aurait jamais gagné à Montpellier. On aurait dû en être conscient et se bouger le cul avant au lieu de penser que ça allait le faire et qu'on allait...
Pour reprendre l'expression de Grégory Pesley, ça va le faire.
Voilà,
donc expression lancée par Grégory Pesley aux supporters visiteurs après Boulogne RCS, donc il y a quelques semaines, ça va le faire. Non, ça l'a pas fait, effectivement.
Mais Pesley milite pour la stabilité du club, c'est pour ça.
Il veut garder son boulot.
Rester en Ligue 2, c'est bien.
On le remercie chaleureusement, en tout cas.
Merci Greg.
Merci beaucoup, du fond du cœur. Niki, un petit sentiment.
Sur ce que j'ai vu du match vendredi soir, j'avais surtout à partir de la réduction du score de Traoré, j'avais l'impression que c'est pas passé à grand chose non plus, puisque comme disait Conan, il y a eu les 2 balles de but sur la fin. Malheureusement, c'est pas rentré, donc il y a eu un côté malchance aussi qui a joué là-dedans. Si l'une des 2 balles était entrée ou si Coad avait mis son pénalty, tout aurait pu basculer dans l'autre sens. Donc voilà, c'est ce que je retiendrai. C'est pas passé loin, mais malheureusement... comme tu disais, ça l'a pas fait.
Non, ça l'a pas fait, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je ne sais pas, sauf si vous voulez encore ajouter quelque chose sur ce désastre Montpellier-Rhin, on peut tout de suite peut-être passer, je ne sais pas, à une autre rubrique. Oui, Conan, tu as toujours des choses à ajouter. Donc,
Oui, quand même un fait intéressant, hein, parce que l'heure est au bilan un petit peu.
Là, c'est l'heure du bilan.
Le fait que face à nos adversaires directs, hein, pour la montée, hein, que ce soit Lens, que ce soit Tours, que ce soit Boulogne,
Angers,
Metz.
Alors on a fait un nul à Vannes, mais Vannes a fini, je sais pas.
Dixième Vannes.
Son dixième Vannes. Qui c'est qui monte encore? Il y a Lens, il y a bah Metz contre pas. Il y a Tours, bah tout,
Metz,
que,
Tours,
ce, que ce soit face à tous ses adversaires, bah, à l'extérieur on a pris 0 points.
Ouais, on a perdu face aux 7 premiers, je crois. Enfin, c'est...
Voilà. Mais à l'extérieur, cette saison, d'une façon générale, moi je ne me souviens pas d'un match où on a gagné, bon par exemple à 3, mais on joue très mal, à Guingamp on joue très mal, on gagne parce que Bas met un doublé, à 3 c'est,
bon,
c'est
Brest,
la cour, à Brest il y a hold-up, quasiment tous les matchs à l'extérieur, il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on a pu prendre des points, mais sinon il n'y a pas de match de référence à l'extérieur où on a pu se dire sur ce match, tiens là on a fait un bon match, on mérite notre victoire, on a écrasé l'adversaire, jamais.
On n'a pas su gagner le match qu'il a fui, comme on a su gagner il y a 2 ans, on avait su gagner à Wavre.
Chercher un nul à Caen.
Ou chercher un nul à Caen, bah ça on n'a pas su le faire. Et même à domicile hein, face aux adversaires directs,
hein,
on a...
Non mais là ça va. Hein.
Non. Enfin nul contre Lens, 0-0 contre Metz.
Tours 4-0.
On bat Boulogne, on bat
Tours 4-0.
Oui, mais bon.
Tours, non mais Tours, il n'y avait pas conscience de ses difficultés
oui, bon.
À ce moment-là.
Boulogne, on gagne quoi, 1-0, non, à domicile.
1-0 très difficilement avec un but de Garborov.
Aussi, ouais.
Et la
ouais.
Garborov.
Enfin bon, on n'était pas... Voilà, c'est face aux grosses équipes, on n'a pas été impériaux.
Alors face aux petites, pas franchement non plus.
Mais c'est une réflexion que je me fais, parce qu'on a souvent glosé sur l'absence ou non de volonté, de rage de vaincre de la part des Strasbourgeois. Et justement, moi j'ai l'impression que les victoires qu'on a arrachées, ça a été surtout, comment dirais-je, face à des petites équipes, entre guillemets, hein, du genre, dernièrement il y a eu Amiens et Reims, ce sont des victoires qu'on a arrachées aux tripes. Et c'est finalement, c'est peut-être le bilan de la saison, c'est que finalement on avait une équipe limitée, mais une équipe qui avait la rage de vaincre. Ça marchait contre les petites équipes, bah à partir du moment où le seuil de compétence était dépassé, bah on ne pouvait plus grand chose.
Parce que ce qui est sûr, c'est que si on gagne à domicile avec les tripes contre des clubs qui descendent, qu'est-ce qu'on fait contre des clubs qui jouent la montée quoi. Je veux dire, là les trips, effectivement, ça suffit plus.
Donc, non,
là, on est juste out quoi, pour la montée.
Ce qui est assez effrayant. Hein. Ce qui est assez effrayant. Maintenant, je voudrais quand même me projeter un an en arrière.
Projette-toi.
Je me projette.
Bien sûr, il y a
pas.
Non, mais souvenez-vous hein, de notre état d'esprit, hein, non, jour pour jour, quand on... de se prendre 11 défaites d'affilée. Le début de la saison de Ligue 2, je pense pas qu'il y ait grand monde qui pensait qu'on allait jouer la montée sur le dernier match. Je pense plutôt qu'on disait ouais, au mieux on sera milieu de tableau, au pire on va peut-être descendre en national.
Bah, tout le monde disait qu'on allait descendre en national.
Voilà.
Mais je pense que c'est sur le coup de la déception aussi il y a un an qu'on pensait ça. Après, une fois qu'on a vu le début de saison, l'équipe qui se mettait en place, il y avait quand même moyen d'espérer autre chose.
Peut-être. Mais oui, plus bon, les premiers résultats ont été encourageants. Et moi, je dis, la veille du match contre Montpellier, je parle du match à la Méno, hein, en juillet, moi, personnellement, je pensais pas qu'on allait être un prétendant à la montée.
À t'entendre, c'est presque un point positif qu'on ait pu être en mesure de jouer la montée à Montpellier en fin de saison, donc il y a
positif,
2 jours. Quoi.
Point positif, non, parce que Strasbourg a pu aspirer à mieux, clairement. Maintenant, l'état où en étaient les choses il y a un an, enfin il y a 10 mois on va dire, oui pour moi on a été plus haut que ce que j'attendais.
Est-ce que c'est le cas aussi pour vous, Gigus, Marc, Niki?
Non.
Niki.
Alors pour non, moi, j'ai
que vous deux. D'accord.
J'ai tout de suite, enfin même la saison dernière, c'est vrai que la déception des 11 défaites d'affilée a été très dure pendant plusieurs jours. Mais la veille du match contre Montpellier à Meno, comme disait Conan, moi j'étais confiante, je me disais bon de toute façon on ne peut pas rester 2 saisons en Ligue 2.
Et puis surtout on ne peut pas ne pas jouer la montée. Hein.
Voilà. Oui. C'était avec les 3 clubs qui venaient descendre, que ce soit Lens, Metz ou Strasbourg, c'était évident que les 3 allaient rejouer la montée. Mais après au bout de quelques mois, je sentais aussi qu'il y en aurait forcément un des 3 qui allait rester sur le carreau à un moment donné. Bon, je pensais que ça serait Metz, que Lens et Strasbourg allaient remonter. Avec Montpellier qui était bien placé déjà depuis un bout de temps aussi pour la remontée. Mais bon voilà, finalement Strasbourg et Metz sont restés tous les deux en Ligue 2. Donc voilà. Mais je sentais aussi qu'il ne fallait pas jouer la montée à Montpellier en fait. C'est une évidence.
Oui, je sais pas.
Non mais je veux dire, yes. on devait remonter là, je pense qu'on paye un peu l'effet ch'ti de Boulogne qui a fait une saison un peu exceptionnelle sans trop savoir pourquoi. Bon, je sais pas, j'ai pas trop regardé les matchs de Boulogne, mais bon.
Moi j'ai vu quelques matchs de Boulogne et je trouve que c'était une équipe qui a joué en bloc, qui était très solide, qui était très, très solidaire. Quoi. Humainement j'ai senti que Boulogne allait voir jouer, c'était... Notamment j'ai vu un match de Coupe de France, Boulogne-Caen, où Boulogne gagnait 3-1 contre Caen, donc qui était, oui parce que maintenant ils sont descendus en D1. Et ce match-là m'a impressionné par leur force collective. Quoi. Comment ?
En D2.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Ils sont descendus en D1.
Ah bon, pardon.
Non, il y avait...
J'ai un peu perturbé.
Non mais Boulogne ne doit pas se retrouver. Boulogne ne doit pas sans remettre en cause l'équipe. Hein. Boulogne était une très belle équipe. La preuve, on l'a vu à la Méno, on a eu toutes les peines du monde de les battre. Là-bas, on a eu toutes les peines du monde d'essayer de faire semblant de jouer au football. Mais ils doivent pas monter, ils doivent s'écrouler, ils doivent avoir un blessé, ils ont pas de banc, il y a rien qui suit. C'est vraiment l'équipe surprise qui va au bout. Là, par exemple, on avait vu une année c'était Amiens, l'équipe avait raté d'un rien. L'autre année c'était Beauvais, ils ont raté. C'est une équipe surprise. On a un peu payé la surprise. Je sais pas, ils ont eu parce qu'ils finissent quand même sur trois derniers matchs où ils finissent en folie, alors que si, enfin, pouvait très bien s'effondrer après le match face à Strasbourg. Je pense que si on marquait le premier but contre eux, c'était pour eux la saison était finie et ils plongeaient. On s'est croisés et c'est nous qui avons plongé.
Il y avait pas mal de moments d'ailleurs dans la saison où Boulogne pouvait s'effondrer, parce que moi j'attendais depuis le mois d'octobre, j'attendais l'effondrement de Boulogne. Je me suis dit ils peuvent pas continuer sur cette lancée jusqu'au mois de mai, c'est pas possible. À un moment donné, ils vont plonger et lâcher l'affaire.
Il y a un mois et demi, quand on a joué à Lens, on avait 7 points d'avance sur Boulogne.
Mais ils ont ressuscité deux fois, parce qu'ils sont morts deux fois. Oui. Une fois, ils ont fait deux séries catastrophiques.
Sept matchs en victoire, je crois, au moment, et un truc comme ça. Dans l'hiver, après remonter un peu, et après, juste avant qu'on les joue, ils ont fait une série de trois défaites.
Donc c'est vrai que c'est un peu un miracle.
Oui, un miracle, oui et non. Hein. Peut-être qu'ils ont... Peut-être qu'on sous-estime aussi le talent de certains joueurs qu'ils alignent. Bon, on connaît un peu Grégory Thy. Il y a aussi ce jeune défenseur hein, qui a signé pour un club anglais, pour Hull City. D'ailleurs, hein, nous saluons les six supporters de Hull City sympathiques hein, que nous avons rencontrés à Montpellier, qui étaient avec nous dans le parcage, hein, justement. Des amis à Marc.
Venu nous soutenir. Hein.
Ouais.
Bon, malheureusement.
Le Racing qui ne connaît pas de frontières au niveau passionnel.
De frontières, ouais. Donc,
mais justement, c'est ouvert à toute découverte parce de différentes cultures.
Donc pour revenir, oui, sur Boulogne, une équipe enthousiaste, une équipe qui n'avait pas de pression. Donc c'est une équipe hein, qui était miraculée hein, la saison dernière. Hein. Rappelons qu'ils sont. Sur un but à la dernière seconde, hein, parce que nous on n'a pas su faire malheureusement à Montpellier. Bah, eux ils se sont sauvés, donc ils ont joué, ils ont eu quelques bons résultats. Ils ont persévéré, ils n'avaient pas de pression, ils avaient des valeurs de solidarité. Et ils ont eu le brin de chance, hein, notamment le fait de jouer Lens au moment qu'il fallait. Et puis voilà, bravo à eux, c'est bien, je suis content pour eux.
Mais moi je pense que...
Pas moi. Ouais.
Pourquoi pas.
Pour être honnête, moi non plus. Voilà.
J'aurais presque même envie qu'il leur arrive des choses pas très sympas à dire.
Entre nous, je préfère que ça soit eux qui montent que Metz, mais bon, ça c'est mon opinion.
Marc, oui, tu voulais dire quelque chose, je crois.
Bah oui.
Non mais, enfin... Pour revenir au début de saison, effectivement, quand j'entendais que le staff prévoyait une montée sur 2 ans, déjà pour moi c'était fou quoi. Il fallait monter la première année, on ne pouvait pas se permettre de se dire sur 2 ans. Déjà. Après, effectivement, il y a eu la série de 5 victoires qui m'a un peu bluffé.
Ouais.
Mais je pense que c'était un fait de paille, quoi. Puisque bon, on a gardé quelques joueurs, il y a eu une entente. Comme dit des équipes de Ligue 2 qui avaient fait des petits paris, qui ont fonctionné, je pense pour Boulogne, pour Tours. Voilà. Après, encore une fois, l'hiver. Qui ne nous est pas du tout favorable quoi. Mais que ce soit Boulogne ou Tours, je pense que Tours aurait tout aussi pu monter. Peut-être moi j'ai pas envie de donner de faire des fleurs à Boulogne. Boulogne monte, c'est parce que au final ils ont arraché 3-4 points de plus. Mais il y a eu quelques équipes dont Montpellier, Tours, Boulogne, qui. Voilà, ça s'est joué là-dessus. Sur justement des performances que Strasbourg n'a malheureusement pas réussi à faire. Quoi.
Conan.
Alors tu reviens justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Toi, tu disais que la direction avait annoncé de remonter en 2 ans, sur 2 ans.
On est dans les clous.
On est, oui. Malheureusement, oui. Donc ça rejoint un peu ce que je disais, hein, quand le fait que le premier match contre Montpellier, moi j'y croyais pas du tout à la remontée. Je rappelle quand même que contre Montpellier, pour la première saison, on a mis une attaque Carlier-Zenke. Voilà.
Donc, ça fait rire, effectivement.
Ça c'est l'équipe qu'il voilà, n'y avait pas encore Candia Traoré.
D'ailleurs, on va peut-être regretter cette attaque Carlier-Zenke le premier août prochain. Hein. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir en attaque.
Zenke sera là encore, enfin peut-être. Puisque pour l'instant, il n'y a aucun.
Ah, ça dépend, à voir ce que Zenke va donner avec un autre entraîneur. Bon, ça, on y reviendra. On va sûrement parler de Furlan au cours de l'émission. Mais ce que je veux dire, voilà, pour revenir à ce que je disais, bon, il y a eu en début de saison cette série de 5 victoires qui a été, à mon avis, très trompe-l'œil. Bon, qui nous a lancé sur de bons rails. Mais qui nous a fait finalement qui nous a fait croire en quelque chose auquel on était peut-être un peu juste, tout simplement.
Ah, je pense.
Et alors que finalement, la place de Strasbourg, c'était.
Juste en même temps, enfin, je sais pas, c'est relatif de dire juste étant donné qu'on loupe la montée à un point. Donc oui. On y était. C'est juste. Très juste dans un sens.
Ouais.
Dans l'autre sens, on est quand même vraiment pas loin du tout d'avoir accroché le bon wagon. Donc,
Alors une Ligue 2 quand même cette année, assez bizarre, enfin pas forcément de très très haut niveau en tête. Il y a un resserrement assez entre le bas et le haut qui est un écart pas très fort.
Ce que j'allais dire, c'est.
Je crois que Lens finit avec 10 défaites ou 9 défaites. 9 on a 8 défaites, 9 défaites. Enfin, je crois qu'on est même Metz et Strasbourg.
Deux
équipes sont le moins de défaites.
C'est ce que j'allais dire, ouais.
Donc, est-ce que Lens est meilleur que Metz pour nous mettre hors jeu?
Est-ce qu'avec la victoire à 2 points, on serait monté
avec les poteaux carrés, peut-être.
Faudrait faire les calculs.
Je suis pour le retour de la victoire à 2 points et l'annulation de la règle qui interdit aux gardiens de prendre la passe en retrait. Ça, c'est un petit intermède.
Allemagne-Argentine, 90, voilà. Là, ce match scandaleux.
Ouais. Mais bon, la victoire à 2 points...
Attends, je suis désolé, c'est la seule réforme qu'ils ont eu le coup à faire, la FIFA. Ça a changé la face du football.
Je suis contre.
Déjà l'Allemagne ne gagne plus depuis qu'il y a cette réforme.
Justement, je préfère l'Allemagne que
que l'Italie.
Bon, ça dépend. L'Italie a gagné en 82 comme en 2006. Ce qui n'est pas le cas de la France.
La France a gagné en 84 comme en 2000.
Ouais, enfin bref. Bref, on passe peut-être changement de rubrique. Hein. Parler un peu du déplacement en lui-même d'un point de vue émotionnel, parce qu'on était. On est 4 autour de cette table à y être allé. Bon, Niki va peut-être rester un peu en retrait.
Pendant une heure.
Le temps du boulot de m'avoir permis de rester.
Est-ce que tu y serais allé sans le boulot, quoi?
Bah oui.
Mais si j'avais pu prendre congé ou en plus de ça, étant donné que je travaille le jeudi jusqu'à minuit et que le départ se faisait à minuit, j'aurais dû m'arranger pour le jeudi, j'aurais dû m'arranger pour le vendredi, ça faisait trop. Donc je suis restée. Donc émotionnellement, c'était peut-être un peu moins fort que vous qui étiez, mais devant mon écran, derrière l'accueil, j'avais un petit peu les larmes aux yeux, mais je me suis retenue parce que j'avais des clients quand même.
Tu bosses dans une auberge de jeunesse, hein, pour préciser aux auditeurs.
Pas dans notre métier sans.
Non, quand je dis j'avais des clients.
Pharmacienne.
Croque-mort.
Bon, on peut dire que les matchs le vendredi, c'est nul. Hein.
Mais c'est pour ça que j'attendais
pour Niki qui travaille.
Merci Thierry.
Merci beaucoup.
Ouais. Ouais. L'an prochain, on va se taper des déplacements à Nantes le lundi soir. Ça
On jouera à Nantes et
Metz.
Metz le lundi soir. Et le reste, on sera le vendredi, je pense.
Metz, c'est un des rares où je pourrais peut-être aller.
En tout cas, sur le déplacement à Montpellier, donc
un
point de vue émotionnel, Conan, toi qui aimes raconter et déclamer les choses.
Ah non, ça a été un très très grand moment, enfin, c'est-à-dire dans le sens émotionnel du terme. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, je pense, qui va rester gravé dans nos mémoires. On a vécu des instants horribles, il faut le dire, hein, parce que voir toute une tribune qui pleure, c'est quelque chose de poignant. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez affreux. On a vu un déplacement, hein, donc nous on avait trois bus UB90.
Dont un bus presque ch'toubiste.
Enfin...
Comme Tatou n'écoute pas, on peut dire.
Oui.
On va dire qu'il y avait beaucoup de ch'toubistes qui sont venus pour la première fois, pour la 30e fois, mais et qui se sont retrouvés, ça c'est aussi sympa.
Ouais, ça a été, c'était vraiment...
En dehors du match, c'était sympa de se retrouver.
On a des Shtoubis, bah, par exemple, il y a Remember 79 hein, qui vient souvent chroniquer avec nous. J'ai bien dit chroniquer.
Tu as dit chroniquer.
Ouais.
Chroniquer.
C'est un chroniqueur. Et donc, nous saluons Remember 79, bah, c'était son premier déplacement. Et ça lui a tellement plu que là il veut se carter du B90, il veut aller dans le COP, enfin il veut vraiment...
Il veut aller taper les gîtes dans les...
Mais d'ailleurs si vous avez vu le top, si vous ne l'avez pas encore fait, lisez le topic « Et toi, tu te réabonnes » là, ouvert par le Nain de Jardin, comme des réactions poignantes de beaucoup de fans qui étaient à Montpellier, qui ont envie de combattre ces déceptions par un surcroît d'investissement, ouais. Et ça fait plaisir.
C'est vraiment quelque chose hein, qui est très fort hein, là-dessus. J'ai l'impression que personne, et tous ceux qui y étaient, il n'y a personne qui regrette d'y avoir été.
Parce que, on regrette peut-être le match.
Voilà. On regrette le match, on regrette l'accueil que nous avons reçu de la part de certains de Montpellierens.
Bon, ça allait.
Oui, ça allait.
Toute amicalité, c'est bien.
Toute amicalité, des bons rôles de bienvenue. Bref.
Nous demandons toujours la double nationalité, hein, bien sûr. Hein. Bien
précisez peut-être de quoi vous parlez.
Donc, on a vu une banderole notamment hein, qui. Je crois qu'il était écrit textuellement Montpellier en Ligue 1 et Strasbourg en Bundesliga.
On prend la B1, on vous laisse la Bundesliga.
Oui, un truc comme ça.
Parce que les Montpellierens n'emploient pas le terme de Ligue 1, oui. Puisque d'ailleurs ils n'y ont jamais joué.
Si, en 2002-2003.
Mais c'était pas la D1 quoi.
Si, c'était déjà
en 2003-2004.
C'était déjà la
Ligue 1. Ils n'utilisent pas le terme de Ligue 1 qui est obsolète. Et...
Ils parlent aussi en France, ce qui paraît, mais bon, c'est pas...
Bon. En Louis d'or, il parle.
Non, mais donc, ouais, Conan, très fort, bah, tout le monde confirme. C'était un moment de solidarité, de communion. Alors, pas du tout avec les joueurs, hein, puisque... les joueurs étaient dans le match, enfin plus ou moins pendant le match. Et bon, à la fin du match, ils ont dû quitter rapidement,
déguerpir,
puisque le terrain était envahi rapidement,
très rapidement.
Ouais, ouais. Peut-être même avant le 6 juillet.
Je pense qu'avant le coup de sifflet final, les Strasbourgeois étaient déjà dans le vestiaire. Je pense qu'ils.
Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que le dernier quart d'heure a pas été une grande pression sur on va pas revenir sur le match, non, sur le déplacement, donc avant effectivement ce moment au stade où on reviendra peut-être dans quelques instants, mais rien que l'aller, enfin le trajet aller, donc on est parti
à minuit
avec le retard habituel.
Oui,
on est parti à minuit et demi.
À 35 quoi. Ouais.
On est parti à minuit et demi, donc nous étions tous les quatre, moi, Gigas, Conan et Marc, donc au fond du...
La lanterne. Hein,
la lanterne, si vous voulez chercher le pseudo sur le Shtoub, allez voir son Shtoub blog, ou etc.
Il y a rien.
Lui crée des MP coquins, enfin bon. Voilà, nous étions tous les quatre au fond du deuxième bus UB90, conduit notamment par deux chauffeurs mythiques, dont une chauffeuse.
Suzanne, que nous saluons, voilà, que nous embrassons.
Que nous embrassons.
Merci pour la clim.
Ouais, tout à fait.
Voilà, et puis elle nous a emmené jusqu'au bout de ses rêves aussi. Hein.
Voilà, ouais. Ça c'est des références un petit peu private talk. Donc,
si on n'était pas content, on rentrait à pied. Hein.
Voilà. Donc, y avait...
En même temps, la moitié des auditeurs de Radio Shtoum étaient dans le bus.
Ouais, donc ils savent de quoi on parle. Hein. Pour le reste, en tout cas. Non, un trajet aller. Trajet aller plutôt bon,
bon festif, normand, festif, hein, franchement.
Festif, on a maté le DVD, enfin un DVD.
On ne dira pas les DVD que nous avons.
un DVD amateur retraçant le.
On veut des noms.
La jeunesse de ça.
Retraçant le parcours.
C'est un film de 79, c'est
voilà, ça. Voilà, 1979, le réalisateur inconnu, mais en tout cas, donc, le parcours menant le Racing au titre en 79, donc avec des images d'archives, truc très sympa. On a regardé aussi un DVD amené par Conan, les deux DVD étaient ramenés par Conan, donc des inconnus, hein, les sketchs des inconnus, qui ont permis de nous déstresser un petit peu avant donc le petit déjeuner au soleil, etc. Non, mais bon, quand même, intérieurement, ça bouillonnait déjà. Quoi,
bah, on était impatients d'y être.
Bah, quand
on était impatients de vivre ça, et c'est vrai que... Enfin, moi, je sais pas vous, moi, moi, des grands moments, c'est quand on était dans les marches du stade, on attendait que tout le monde rentre pour faire... En fait, ce qu'on voulait faire, c'est rentrer en même temps que les joueurs. Au moment où les joueurs...
C'est une idée à la con.
C'est une idée de chonchon, je crois, un truc. Et genre, rentrer, pénétrer dans la tribune au moment où les joueurs rentrent.
Pénètre dans le terrain.
Nos joueurs pénétrer dans le terrain. Et...
Ils ont même fait pénétrer dans les buts aussi.
Alors, ouais, ouais. Pour l'anecdote aussi, à la base, on était prévu pour être en tribune haute. Et a priori, hein, donc on, le public strasbourgeois était tellement bouillonnant que la tribune tremblait.
Et c'est pour ça... Version officielle, moi je suis pas sûr que ce soit...
Accessoirement aussi...
Même l'architecte que Furiani, à ce qu'il paraît, mais je ne sais pas.
Et en fait...
sulfureux, donné par Marc, vérifié quand même hein, avant de...
et la police, en fait, quelques minutes avant le coup d'envoi, nous a déplacé en tribune basse, en fait. Hein.
Enfin, une espèce d'organisation digne
de... Il y a une version où ça bougeait tellement que le gradin, enfin, la tribune ne pouvait pas tellement tenir. Une autre où c'est plutôt par sécurité, par rapport au drapeau qu'on aurait pu lancer sur la pelouse.
Bon, en tout cas, c'était... Pour résumer, c'était...
Par contre, on aurait beaucoup mieux vu le match.
Ah oui.
Parce que franchement, là, on était mal placé dans un... Donc, la tribune qui est humide en permanence, parce qu'elle est déjà humide il y a 2 ans. Donc c'est une espèce de flaque par terre, donc il n'y a aucune visibilité, il y a genre 4 barrières, 3 filets devant, enfin...
Non, en tout cas,
c'est pire qu'à Metz quasiment.
Pour résumer quand même, l'organisation à la Montpellier-Rennes, c'était vraiment du n'importe quoi au niveau sécurité, au niveau organisation, histoire de changement de tribune à 10 minutes du coup d'envoi, c'était un peu n'importe quoi. Les toilettes, hein, je signale quand même que dans un stade Coupe du Monde 98, vous avez un chiotte pour... 500, mais bon, on aurait pu être beaucoup plus.
Ben oui,
la buvette, les planqués, je sais pas où. Ouais, tu l'as pas trouvé, ouais, ça m'étonne pas. Alors, quand en plus, ils sont derrière les grilles, quand ils passent les boissons, ils sont obligés d'incliner les bouteilles de coca et tout, de soda pour éviter de les renverser. Enfin, c'est du n'importe quoi. Donc, pour un stade Coupe du Monde 98, c'est quand même assez risible, on va dire.
Vivement l'Eurostadium.
Voilà.
Merci pas.
Peut-être pas. Et d'ailleurs, c'est pareil 5 ans après ou 10 ans après.
Mais ça ne sera pas.
Bon, enfin bref, à part lancer le débat.
Par contre, tu viens sur les toilettes, hein, je tiens à dire que la Méno doit avoir les plus belles toilettes de France. Hein.
En visiteur.
Alors, en visiteur, je sais pas comment c'est, mais sur le reste du stade, je sais pas si t'as déjà été uriné à la Méno, c'est un plaisir quoi.
C'est des chiottes.
Non, d'ailleurs, on y allait ensemble, hein, c'est un vrai plaisir.
d'ailleurs, moi j'ai croisé Guy Lacombe, toilette de la Méno.
J'avais croisé dans le stade une fois.
Tu y as pris beaucoup de plaisir. D'accord.
Bon, allez, on revient sur Montpellier.
Ah, et alors pour finir, parce qu'on parlait de l'Eurostadium, de remercier quand même le président Genesté d'avoir payé le déplacement. Geste ô combien intéressé peut-être, mais au moins lorsqu'on voit qu'à Metz ou à Nantes, les descentes ou les non-remontées se passent un peu dans la violence, à Strasbourg, il y a quand même des joueurs qui veulent se réabonner et continuer à aller se déplacer pour voir le club. Donc ça joue aussi cette espèce de respect mutuel qu'il y a, malgré les mauvais résultats. Bon, je veux dire, on n'a pas grand-chose, mais bon, au moins, on a ça encore.
On a la qualité humaine.
Ça ne nous empêche pas qu'on peut critiquer le
président. Ah non, mais je ne dis pas qu'on ne va pas critiquer, mais au moins...
On va critiquer le président dans quelques instants. Juste pour ce que je m'étais arrêté, je voulais faire un peu... retracer chronologiquement le déplacement, tu m'as interrompu comme d'habitude Conan. Donc j'en étais à la matinée. J'ai dû rebondir sur ta remarque.
Donc Gigas, il a rencontré Guy Combe dans les...
Non mais ça c'est... Non. Bon. Déplacement, on arrive donc avec...
Tu vas dans les toilettes, mais tu croises un mec
avec une goutte dans la bouche.
Vous avez une casquette en cuir. Donc, Paulo.
On va raconter un truc horrible après l'émission.
Bon.
C'est vrai.
Ça a rien à voir, on a raconté ça hier.
C'est bon, je peux y aller, merci. Donc, à 11h, nous arrivons dans le sud. Nous apercevons la mer, nous apercevons l'étendue bleue. Et finalement, nous débarquons à 11h02. L'étendue bleue.
Ouais, elle était bleue, la mer.
C'est une mer, c'est bleu.
Mais pourquoi? Ah, les tons.
L'étendue bleue.
Ah, et on était allé tantôt aussi à côté, c'est pour ça.
Bon. Tu sais pourquoi la mer est bleue? Parce que ça reflète le ciel qui est bleu à cause de l'ozone.
D'accord, mais... Voilà.
C'est-à-dire que si le ciel était rouge, la mer serait rouge.
Voilà. C'était la minute culturelle de Colin.
Parce que l'eau, c'est un color.
Nous étions donc... C'est pour les...
Nous étions à 11h, hein, on était sur la plage, on arrivait, il faisait plot, il faisait super beau, on s'est pris des coups de soleil. Voilà, il y a Gigas qui est blanc comme un cul d'habitude, il est tout rouge comme une écrevisse aujourd'hui. Il y a des gens, hein, qui n'ont pas pu marcher, hein, on fait un gros bisou à Sunshine. Hein,
qui a terminé le déplacement,
qui a les pieds cramés.
Incapable de marcher, les pieds cramés par le soleil brutal et agressif de Montpellier.
Voilà.
Et donc finalement, donc, il y a un après-midi quand même sympathique à la plage, on a discuté, on a pris des coups de soleil, on a
découvert
faire les fous dans l'eau, découverte aussi avec les Anglais de Hull City qui étaient sur la plage, et après arriver au stade vers 18h, 19h30, enfin plus 19h30 que 18h.
Oui.
Et après la suite qu'on a un petit peu raconté, hein, en morceaux comme ça, mais en tout cas c'était... Et puis la fin du match, hein, surtout peut-être... donc on passe un petit peu...
Je tiens à souligner, avant de parler de la fin du match, qu'on a quand même mis une grosse ambiance. Hein.
Oui, ça c'est vrai aussi. Ouais.
On s'est fait entendre plusieurs fois.
On s'est fait siffler
plusieurs fois, preuve que, voilà, que le public local entendait nos chants, puisque a priori, voilà, ça leur a pas plu, et on s'est bien fait siffler. Ce qui a encore décuplé notre motivation.
Belle Marseillaise. Hein.
Très belle Marseillaise en réponse à la banderole, hein, susnommée.
Donc une banderole effectivement qui insinuait plutôt une appartenance à Strasbourg. Oui, ben, je répète parce que vous avez mal expliqué. Oui, enfin...
Non mais là, c'est le moment où on a vraiment senti que tout le public s'est senti concerné, et je pense qu'elle a limite claqué plus que tous les autres chants. Parce que là, chacun enfin, tous les présents du coup se sont vraiment sentis blessés. Quelque part, et grosse réponse, je pense.
Ouais.
Et ça, ça fait...
Moi, c'est ça qui moi, je n'ai pas chanté personnellement, hein, parce que je ne chante jamais la Marseillaise.
Que l'hymne italien, mais...
Je ne chante jamais la Marseillaise.
Mais à part ça, non, je pense que...
Ni l'hymne italien, d'ailleurs.
Non, mais là, c'est vraiment un bonheur, ce moment.
Tu connais même pas les paroles, c'est-à-dire ?
De quoi, l'hymne italien ?
Non, la fin de Marseillaise.
Si, enfin, vaguement, quoi.
Voilà.
Mais bon, enfin bref, on n'a pas...
Tu chantes même pas le dernier couplet de Didier Roustan ?
Non.
C'est quoi cette histoire ?
Il avait rajouté un couplet, je crois. Non, c'était lui, c'était Roustan.
C'est quoi, on embrassait tous les enfants ?
Ouais, un truc un peu... Non, mais un truc un peu...
Non, ça c'est...
Un truc un peu plus fraternel.
Il est très fraternel.
Non, mais parlons un peu de effectivement grosse ambiance pendant le match, où quand même le public strasbourgeois a par moment vraiment mis le feu à la mousson. Les fins de match, quand même, le dernier quart d'heure où les premières larmes qui coulent.
T'as pas chanté la Marseillaise, toi.
Mais écoute, je l'ai pas chanté. Je vois pas pourquoi je la chanterai.
Ah
bon. Bref. Dernier quart d'heure, les premières larmes qui coulent.
Deutschland Uber. Non. Ouais. Les
larmes qui coulent, cette émotion partagée, enfin moi j'ai vu mes potes, vous, d'autres, les larmes aux yeux en train de chialer,
ça,
c'est dur quoi, comment on décrit ça, là-dessus quoi.
Il y a une image qui reste gravée, hein, c'est les deux capots, c'est-à-dire les deux personnes, hein, qui sont au mégaphone, hein, c'est
chargé de l'animation.
Chonchon et Kenny, hein, qui ont un compte sur le Schtoub d'ailleurs. Et les 10 dernières minutes, il lançait les chants, il continuait à s'égosiller en lançant les chants, et il pleurait en lançant les chants, quoi. Ça, c'est quelque chose... On voit ces deux gaillards, quoi, enfin...
C'est magnifique. Ouais. Mais dans la tristesse, c'était magnifique.
Ah ouais,
ça m'a... Cool, en les voyant, j'ai eu la chair de poule, quoi.
Là, putain, les gars... Et
pourtant, je me suis lâché qu'après.
Et pourtant, après,
pourtant,
c'est pas des gens... voilà, ils vont être émotionnés pour la...
Oh, Chonchon, il regarde comme des films un peu à l'eau de rose.
Ouais, il a regardé Dirty Dancing avec ta fille.
Parce que sa compagne l'a forcé.
Voilà.
Peut-être.
Parce qu'avant, il connaissait que...
Orange 24.
Orange Mécanique.
Parce qu'il est fan de Superman 4 63. Il a fait un Radio Club Cinéma un jour.
Il a raison. Bon, mais bref.
C'est un sujet dramatique, il parle de Superman 4.
Mais c'est aussi bien ça.
C'est bien.
On a vite dédramatisé.
Ouais, en trois mots. Hein.
Pas vite.
Pas vite. Ça a permis le retour avec ses amis, ses potes, qui partageaient la même déception. Moi, ça m'a permis le lendemain matin de complètement dédramatiser. Mmh. Alors que, bon, au coup de sifflet final, c'était vraiment la fin du monde. Et
ouais, ça.
Le lendemain matin, bon, bah, je savais que je retournerais à la méno avec les mêmes personnes. Donc,
ouais,
le plus important était
le sifflet final. Moi, j'ai senti le sol se dérober. Enfin, le truc... Ah voilà, c'est le gong final, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Et là, on sait plus où on est, quoi. On sait plus où on est, on se retourne, on voit tout le monde qui pleure. Enfin, Mais très rapidement, c'est vrai qu'on a eu un peu la conscience de vivre quelque chose de... Quelque chose d'énorme.
Collectif
et émotionnellement
énorme.
Émotionnellement énorme, quoi. C'est un truc... Moi, c'est ça fait un moment que je vais au stade, je crois que c'est peut-être le moment le plus fort que j'ai vécu.
Pareil pour Gigos.
C'était le pire moment que j'ai vécu, après le plus fort, je sais pas.
Ah, le pire également. Hein,
le pire, ça c'est sûr.
Ça, c'était pas une joie, c'est clair, mais...
Marc,
j'ai pleuré plusieurs fois pour le Racing, la précédente, surtout descente. Mais là, le fait que on sait que c'est reparti pour une saison galère et tout, là c'était vraiment horrible. Et justement, c'est là où on voit qu'il y a des gens qui sont derrière. Comme Conan, j'étais proche de lui, moi j'ai les larmes aux yeux. Mais il y a des gens qui sont là pour te réconforter, tout ça. Et tu sens qu'il y a... T'es pas seul, quoi. Tu peux que le savoir dans la défaite, finalement. Et ça fait plaisir.
C'est vrai que dans la victoire, c'était facile d'être allé à Montpellier. Dans la défaite, on a senti quelque chose de plus fort.
Est-ce à dire que finalement, dans la victoire, émotionnellement, les émotions sont plus individuelles. Dans la défaite, dans la souffrance, les émotions se...
Non, mais c'est pas pareil, parce que quand t'es content, tout le monde est content. Donc ouais, c'est facile, après tu te bourres la gueule, voilà. Mais quand t'es sortir d'un match comme ça, les larmes aux yeux, et puis t'es pas seul. Et t'as des gens qui sont peut-être un peu plus forts, qui se retiennent ou quoi, mais quelque part, tu sens qu'il y a des gens qui sont là pour toi, pour te soutenir. Quand t'es content, il n'y a pas besoin de te soutenir, tout le monde est content. Mais là tu sens vraiment la solidarité du groupe, du club, niveau supporter, et là ça fait vraiment...
Peut-être un petit mot pour de Niki, comment t'as vécu ça, toi, émotionnellement, parlant derrière ton écran, qu'est-ce que t'as pensé au coup de sifflet final, comment t'as vibré le dernier quart d'heure, etc.
Donc moi le problème c'est, comme je disais tout à l'heure, j'étais au boulot donc j'ai pas pu vraiment suivre entièrement le match puisque j'étais souvent interrompue. Donc ouais. Parfois oui franchement. Et non par contre le dernier quart d'heure ouais j'étais plus je sentais de toute façon qu'on allait plus égaliser donc la déception était déjà bien avant le coup de sifflet final. Il y avait une certaine colère aussi parce que quand je suis déçue, il y a toujours la colère qui passe avant. Et... Donc j'étais pas dans un très bon état le quart d'heure final. Et puis après, coup de sifflet final, bon, j'ai un petit peu les larmes aux yeux, je me suis dit, écoute, t'es au boulot, il faut te ressaisir. Donc voilà, par contre. Là où j'ai eu pas mal d'émotions aussi hier, c'est en regardant la télé et en voyant Stéphane Cassa en fait en larmes devant les micros. Donc c'est là que l'émotion est plus ressortie en fait et j'ai vraiment failli pleurer à ce moment-là en fait.
Ouais.
Autant vendredi j'avais pas trop l'occasion, j'étais au boulot, il fallait que je continue là-dedans et que je fasse ce que j'avais à faire. Donc j'avais toujours dans un bout de ma tête le fait que le Racing ne remontait pas, mais c'est plutôt hier que c'est ressorti quand j'ai vu cette image-là qui pour moi restera une des images fortes de cette saison en fait. Et de toute ma. Depuis que je suis supporter, c'est une de mes images fortes que je retiendrai.
Juste peut-être avant d'enchaîner sur quand même la suite, les perspectives du Racing en D2 donc pour la saison 2009-2010. Le retour quand même dans le quart hein, qui curieusement, bon moi je n'avais jamais vécu ça avant, mais on a, comme tu disais Gigus, on a quand même pas relativisé, mais on a réussi à surmonter un peu cette tristesse aussi bien d'un point de vue de la colère en insultant un peu tout le monde dans tous les sens, mais aussi par le rire parce qu'on s'est quand même bien marré aussi sur le retour sur certains épisodes cocasses qui ont émaillé
le
QCB.
Donc il faut pas dire qu'un supporter de voilà. QCB a été oublié sur une aire d'autoroute.
On l'a ramené malgré les protestations de certains nombre de bus, hein, qui ne voulaient pas le ramener.
Donc un supporter qui était dans le bus du KCB, qui ne savait même pas qu'il était avec le KCB parce qu'il croyait qu'il était avec le QCB, donc, a été oublié malencontreusement sur une aire d'autoroute et in extremis il a pu se mettre dans notre bus pour rentrer à Strasbourg. Enfin bon, c'est ce genre de truc.
Ouais, bon, il y a eu des épisodes assez ubuesques.
D'autres épisodes très, très drôles et très, très
ubuesques. Grâce à Suzanne également.
Grâce à Suzanne, notre chauffeuse préférée, qui nous a pour le coup quelque peu chauffé les zygomatiques. Voilà, on nous a engueulé, mais bon, c'est toujours un grand rire, hein, une engueulade égale un rire avec Suzanne, donc ça c'est au moins quelque chose.
Mais moi je sais pas si vous avez eu la même impression. Moi Quand je suis rentré à la maison, moi je me suis connecté sur le Shtoub.
Comme tout le monde,
j'ai ouvert le forum, je m'attendais au pire, hein, franchement. Je me suis dit, ça y est, il y a tous les charognards qui vont sortir, ouais, je vous l'avais dit, machin, tout ça. En fait, pas du tout, moi j'ai...
Oh, pas du tout, il y en a eu quand même.
Ouais, non, il y en a eu quand même, mais j'ai eu également beaucoup de réactions. C'est ce que Cartman, hein, qui était présent il y a quelques semaines, hein, sur cette émission, m'a décrit comme de la rage positive, finalement. C'est-à-dire que les gens sont... Bon, il y a beaucoup de gens anéantis, vraiment, par ce qui s'est passé, on l'est tous, hein, bien sûr, mais qui ont pas envie de lâcher, hein, qui n'ont pas envie de lâcher l'affaire. On dit, mais... Et finalement, ça a un peu renforcé un peu la passion pour le Racing, et le côté que, finalement, le Racing, c'est pas un club comme les autres, parce que pour déclencher des émotions pareilles, c'est que vraiment, faut faire quelque chose, il y a quelque chose à faire chez nous. Voilà, si on était un club, enfin si c'était un club de merde dont tout le monde s'en foutait, ben, il n'y aurait personne pour pleurer. Que là on était 600 à avoir fait 2000 bornes, pour vivre une émotion comme ça, ben, ça montre que le Racing c'est quand même quelque chose, quoi.
Bah, sur ces belles paroles, on va clore la rubrique sur le déplacement Pelé, sur le côté émotionnel de l'histoire, hein, qui, de toute façon, le Racing continuera à nous faire vibrer, hein, que ce soit dans le bien, dans le mal, les prochaines années.
Toi, je sais pas, moi, je suis vraiment impatient que la saison reprenne.
Ouais, moi, je suis toujours impatient.
Deux mois sans foutre, quoi.
Bah, là, je suis plus impatient là que la saison dernière où j'étais... Ouais. D'un point de vue de mon équipe dégoûté et scandalisé, enfin tout ce que tu veux. Là je suis pas content, mais je suis pas scandalisé.
C'est l'esprit de revanche là.
C'est vraiment vrai que moi aussi en fait, autant la saison dernière, je me suis dit deux mois sans foutre, ça va être bien, mais on va oublier et tout, mais là, non, j'ai envie que ça recommence. Et puis de toute façon, de manière générale, deux mois sans foutre, pour moi c'est long. Hein, donc...
Ah bon, y a pas de coupe du monde en plus.
Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas d'euro, il n'y a pas de coupe du monde, donc c'est forcément
très bon. Interview.
Modèle de curling.
Moi je suis fan de cyclisme, il y a le Tour de France. Donc,
voilà, rediffusion de Superman 4, hein, qui est conseillé par son fond.
Et puis regardez, sinon, si vous n'avez rien à faire, Légumane, hein, sur internet.
Ah ça c'est génial. C'est dans Téléchat.
J'ai vu ça chez toi, d'ailleurs, sur ton Facebook.
Hein, ouais. Les épisodes de Légumane.
Voilà, donc si vous savez pas quoi faire, là je te biste, hein, désœuvré, tu vas sur YouTube et tu tapes Légumane, L-U-L-E-G-U-M-A-N, et tu trouveras une série magnifique.
Et des liens bien sûr vers le site perso de Conan aussi.
Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, allez, on passe à la prochaine Non, même pas, non. Enfin, de toute façon, c'est fait. Cette fois, c'est fait pour...
C'est pas encore. J'ai peur. Hein.
Non, mais... Qui reste.
En tout cas,
voilà.
S'il y en a un qui est capable de rester.
Ce que je voulais ouvrir comme discussion, c'est voilà, maintenant c'est l'avenir, c'est les perspectives du Racing en D2.
Bah,
comment ça se passe?
On l'a pas dit assez souvent.
Alors il y a Furlan, mais il y a les joueurs, il y a le staff, il y a le président, il y a les actionnaires, il y a plein de choses. Donc qu'est-ce que vous, comment vous envisagez vous le Racing en D2? Niki qui a pas beaucoup parlé, donc je te laisse la parole, à moins que tu veux réfléchir et
non,
ça va, ok.
Bon, le Racing pour la deuxième saison de Ligue 2, pour moi ça sera déjà forcément sans Furlan, mais bon. Pour moi la première aurait déjà dû se faire sans Furlan, donc là encore je suis encore plus.
Bon, ça
je suis encore plus renforcée dans mon idée. Que bon, là il va partir, va falloir trouver un autre entraîneur. Qui veuille bien relever le challenge aussi, parce que je pense que ça va pas être chose facile de trouver quelqu'un qui
est... Et puis quelqu'un de valable.
Quelqu'un de valable, exactement, parce que des entraîneurs,
et qui demande pas d'argent, c'est possible.
Pour la gloire.
Au niveau joueur, ça va être compliqué aussi d'en garder certains. Ouais. Bah, apparemment, ça l'intéresse pas trop d'entraîner l'équipe pro, d'après ce que j'ai entendu.
Bah, je sais pas, j'ai
d'après ce que j'ai lu sur le flou.
Chez Hyperkeres.
Bon, ça l'intéresse.
Ouais. Bon, lui il y a tout le monde. Ouais, donc tu disais après au niveau de certains joueurs.
Non, enfin voilà, au niveau joueur ça va être difficile aussi, étant donné que pour combler le trou financier, il va falloir de toute façon en vendre certains. Donc forcément les plus monnayables et donc les meilleurs. Quel sera l'effectif? Enfin les meilleurs après, bon, il y a Pesley dans le tas, donc.
Est-ce qu'il est moyen avec Pesley?
Je sais pas. Ben Furlan s'en va, donc dans le prochain club de Furlan, si Furlan s'en va, étant donné que c'est son
choix. Et il tomberait, j'aimerais bien qu'il prenne Sochaux et qu'il tombe en seconde division.
Il a déjà joué à Sochaux.
Avec Furlan et Pesley.
Il n'a pas laissé un souvenir impérissable.
Ouais, écoute, comme partout, il est passé.
Ouais, ouais.
Il n'a pas une revanche à prendre, là? Non.
Ouais, peut-être.
Ça sent bien.
Ouais. En tout cas, j'espère que...
on risque...
Baisse les portes.
Bah, au Qatar.
Au niveau effectif, je sais pas trop, donc là, ça va être... faut voir au niveau recrutement aussi, espérons que pour une fois la cellule recrutement du Racing ne fera pas un peu n'importe quoi et essaiera de prendre des joueurs. Non, sur certains cas, ça a été bien réfléchi, sur d'autres, ça a été plus difficile.
Bah, Rodrigo, Joao et Marcos.
Ouais, non, mais
je ne cite pas ces trois joueurs innocemment.
Non, mais je dis pas que je dis pas que le travail est mal fait, mais le recrutement, c'était dit, quelqu'un l'a dit sèchement sur le Stoub, le mercato hivernal, zéro, quoi.
Bah, ça a été n'importe quoi, surtout du fait de la cacophonie qu'il y a eu entre Ginesté et Furlan.
De manière générale, cette saison, le recrutement n'a pas été terrible.
À Traoré ?
Non, Traoré, c'est une des
surprises.
Ouais, Chérini aussi.
Pelé.
Et pour moi, c'est avec Marcos les quatre.
J'ai rien de Pelé.
Mais après ça, bon, là, vous occultez aussi
ça les fait,
cas JGG, Romulo qui n'a jamais joué.
Ça fait quand même quatre titulaires qui sont bien intégrés dans le groupe.
Bézaz, on ne sait pas trop parce qu'il était blessé. On n'a pas, apparemment, ce que j'ai vu, bon, il m'a laissé une bonne impression. Ouais, mais bon,
il n'a pas été terrible dans le dernier match. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il semble y avoir unanimité pour dire que le recrutement, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve pas que c'est plus n'importe quoi que...
Moi, je trouve qu'en fait, il est surtout très mitigé. Autant il y a des bonnes surprises avec Traoré, autant il y a des mauvaises surprises. Et c'est vraiment pour moi, c'est vraiment kiff-kiff.
Ouais, mais tout n'est pas à jeter. Par exemple, on a beaucoup critiqué Pierre Ginesté. Pierre Ginesté a cherché des très bons joueurs. Bon, après, il s'est planté sur certains, je suis d'accord.
Ce qui est n'importe quoi, c'est la gestion du Racing. Parce que encore une fois... Alors on va pas parler d'ennemis intérieurs.
C'est quoi, peut-être.
Mais non, parce que je pense que c'est pas vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne tirait pas dans le même sens.
Voilà, c'est surtout ce qu'il a dit, Furlan.
Effectivement, encore une fois, et le projet même. Alors Furlan a beau jeu de dénoncer certainement Herzog qui lui serrait la ceinture par rapport à ses dépenses un peu ridicule, parce que quand on veut recruter Poté à n'importe quel prix, moi je suis désolé, moi je suis directeur financier, je tape du poing sur la table, hein. On va chercher un joueur obscur de L2 et on veut faire tapis alors qu'on a des problèmes de défense. Enfin, il faut aussi quelqu'un pour modérer, et puis même le projet de Furlan lui-même, j'ai l'impression que lui, il voulait repartir avec le même groupe, il était convaincu d'avoir les bons joueurs, alors que bon, il en manquait quand même, encore et toujours.
Marc, là où je suis pas totalement d'accord avec toi, c'est que... Alors, il a été dit que quand même c'est presque Furlan qui disait à Ginesté de calmer au niveau des dépenses. Furlan était quand même très calme. Il voulait pas visiblement qu'on dégaine le chéquier pour n'importe tout et n'importe quoi. Limite, c'est Furlan qui devait calmer le président. Alors après, effectivement, Poté, est-ce qu'il vaut 200, 300, 500 000? Bon, ça c'est une question. Mais après, il y a aussi le fait de voir la cellule de recrutement qui prend certains joueurs. Donc, en l'occurrence, Kébé ou Djadjadjé. Alors, j'ai rien contre ces deux joueurs, parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de prouver quelque chose. Mais effectivement, si tu mets des joueurs que l'entraîneur ne veut pas, il ne va pas les faire jouer, ou peu. Ça peut, au bout d'un moment, jouer, je pense, dans le collectif.
Kébé, c'est surtout Kébé où il y a eu mésentente. D'ailleurs, sur les autres, c'était Djadjadjé, Bézaz, Romulo... C'est des joueurs que Furlan suivait, mais Furlan avait décidé que le groupe allait jouer la finale à Montpellier et qu'il n'avait pas besoin de se renforcer.
Niki.
Je vous rejoins dans ce que vous avez dit au niveau du recrutement tout à l'heure. C'est vrai que l'entraîneur doit quand même voir à un moment donné avec son président et sa cellule de recrutement les joueurs qui l'intéressent, quel type de joueur il a envie de mettre dans son effectif pour le renforcer. Et chose qui n'a pas été faite, puisque Kébé, il est arrivé, Furlan, on ne le voulait pas, donc il n'a pas fait jouer. Enfin, on a des exemples comme ça. Par contre, là où je pense qu'ils ont mal joué le coup, c'est au niveau du mercato hivernal. On avait tous vu, même nous supporters, qu'au niveau de la défense, il y avait un déséquilibre. La défense était assez faible arme. Et ils n'ont recruté personne pour la défense.
Ils ont laissé partir Weber aussi.
Ils ont laissé partir Weber. Après, c'est vrai qu'il y a eu Chérini, qui jouait derrière avec Pelé. Chérini a été blessé les derniers matchs, donc ça a penché dans la balance de la non-remontée aussi. Mais je pense qu'il y a surtout une chose à reprocher sur cette fin de saison à cellule de recrutement, c'est de ne pas avoir pris de défenseur capable de renforcer la défense. Alors tout le monde avait vu que le point faible du Racing, c'était ça.
Ça c'est plus Furlan.
Donc là effectivement on pointait un
Furlan ou je sais pas
qui. Pointait un petit peu les défauts de la saison dernière, effectivement, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on change, qui on recrute, qui on prend, comment on réorganise, etc. Quelles sont vos pistes pour améliorer les choses pour qu'enfin on arrête le n'importe quoi, parce que là ce qu'on pointe un petit peu c'est les incohérences.
Il y a plusieurs pistes qui ont été données par les déclarations d'après-match. Il y a eu deux principales déclarations d'après-match.
Petit 1,
on l'a déjà évoqué, c'est les larmes de Cassard.
Donc je pense qu'il va partir.
C'est pas une déclaration des larmes.
Non, si, il a fait une déclaration avec. Et justement, moi j'ai l'impression que personne n'a écouté ce qu'il a dit. Hein.
Moi j'ai écouté, ouais, mais j'ai...
Parce qu'il y a tout le monde qui dit, ouais, voilà, c'est larmes, c'est génial, le mec, il est amoureux du Racing. C'est pas du tout ce qu'il dit. Cassard, c'est une déclaration d'amour pour Furlan, hein, ce qu'il dit. Il dit voilà, il y a des gens qui ont bossé pendant toute l'année, qui nous ont donné tous les outils, et on n'a pas réussi, moi je suis dégoûté pour eux. C'est ça qu'il dit.
Si, il a montré du doigt le staff en disant qu'il était vraiment déçu pour des personnes du staff. Donc pour moi, ça peut être Furlan et ça peut être aussi d'autres personnes derrière que...
Enfin, c'est pas comme ça que j'ai compris ce qu'il a dit.
Non, mais de toute façon, tout le monde était derrière Furlan. Ça, au moins,
dans le staff, tu n'as pas seulement Furlan, tu as aussi tous les gens qui travaillent avec.
Moi, je te parle de ce que dit Cassard, hein, je te parle pas de ce que dit Furlan, moi, je te parle de ce qu'a dit Cassard.
Ouais.
Le fait de Cassard pleurer... Il dit putain, ben voilà, il y a des gens, ils nous ont tout donné, ils nous ont tout truc, ils sont bougés pour nous, et voilà, on n'a pas réussi.
Bon, ce qui s'est aussi, c'est qu'à cause des joueurs, il y a des gens qui vont se retrouver au chômage, au Racing, qui font partie de l'encadrement,
du staff,
ouais, les vendeuses de la caissière de la méno, des choses comme ça.
Voilà.
Le magnétiseur, le statisticien. Enfin
moi je l'ai pris comme ça quand il a dit il y a des gens du staff qui n'ont pas mérité ça, c'était ouais. Ça pouvait être Furlan, mais ça pouvait être toutes les autres personnes qui travaillent dans l'ombre, ouais. Nous on connaît pas forcément.
Voilà,
j'ai compris.
Qui l'apprécie et qui sait qu'ils vont se retrouver comme a dit Guigues au chômage.
Ouais, je l'ai compris comme ça aussi, mais bon.
Qui vont pas forcément.
Bon alors, Furlan il le nomme quand même.
Non mais ça d'accord,
mais
le
nomme. Mais après, il peut.
Et ça montre surtout, hein, bon déjà voilà, on parle de changer d'entraîneur, le départ de Furlan, quelque chose d'évident. Ça montre quand même que Furlan il avait quand même les joueurs derrière lui. Enfin, il avait déjà Cassard.
Mais ça c'est ce qui est. Il peut très bien avoir les joueurs derrière lui dans le sens où les joueurs apprécient bien l'homme qui est Furlan. Moi j'ai rien contre l'homme étant donné que je le connais pas, il peut très bien être un homme.
Vous répondez pas à la question, je demande moi qu'est-ce qu'on change là, qu'est-ce qu'on fait là. Là
c'est terminé en tant qu'entraîneur,
ce que je voulais dire.
Tu réponds pas à la question avec le petit 1, donc avec le petit 2. Continue petit 2.
Petit 2, il y a une déclaration de Furlan qui sont très intéressantes aussi, pas souvent été bien compris par le club. Mais il dit que voilà, il remercie tous ceux qui ont. Voilà, c'est ce qu'a dit Guigues, concrètement, il dénonçait que tout le monde n'a pas tiré dans le même sens. Et là, on a les vieux serpents de mer qui ressortent, qui ratent.
Moi, je pense que Furlan, alors effectivement, tout le monde n'a pas tiré dans le même sens, mais on lui a donné les moyens. On lui a donné le recrutement, les joueurs qu'il voulait, il a pu jouer sa technique, il a même été conforté à un moment. Alors il va nous sortir l'excuse de si Ginesté m'avait conforté 2 semaines avant, on aurait gagné 1 ou 2 points en plus, ça c'est des conneries ça. Attends, il avait son équipe, il a pas réussi.
Certes.
Ah voilà, pas à faux.
Échec, mais qu'est-ce qu'on change ?
Échec, donc qu'est-ce qu'on change ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ?
Ok, échec, qu'est-ce qu'on change ?
Ce
qu'on va changer, c'est déjà l'entraîneur.
Alors l'entraîneur, malgré tout, même si l'entraîneur n'est pas de sa faute, je pense
que... Là, de toute façon, on est arrivé à un point de non-retour.
Il a échoué 2 fois de suite.
De toute façon, c'est le deal, il a passé un deal.
Parce que la saison dernière, il y avait toujours les excuses de derrière. Bon, il y avait le public à un moment donné qui pointait du doigt, il y avait les joueurs qui plombaient le vestiaire, enfin Abdesatki et Johansen pour pas les désigner. Etc. Ces joueurs-là
très habilement pas désignés
et il a échoué quand même, donc là il peut pas nous ressortir les mêmes excuses, il va pas nous dire que c'est Pesley étant donné que c'est son chouchou, donc voilà,
à un moment faut arrêter de s'excuser, à un moment il faut dire je l'ai fait, je suis pas passé loin, ça on est conscient non plus que Furlan était a presque réussi et que c'était pas franchement évident, mais il a raté, donc maintenant au revoir.
Ouais, non mais personne ne comptait ça,
mais de toute façon on lance même pas
là. Lui parce qu'il a commencé à de nouveau à donner.
Moi j'ai pas eu le sentiment que ça soit quelqu'un qui cherche à s'accrocher à son poste.
Non mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche des excuses tout le temps.
Exactement.
Oui mais
si qu'une seule fois il pouvait faire un mea culpa quelque part en disant même la saison dernière en disant que au lieu de chercher des excuses, qu'il avait aussi sa part de responsabilité. Je ne dis pas que c'est lui qui a l'entière responsabilité. Il y a beaucoup de facteurs qui ont joué dans la saison dernière et cette saison aussi d'ailleurs. Mais il a sa part.
Et de dire si j'échoue, je pars sans toucher d'indemnité, c'est pas de faire un mea culpa.
Si, peut-être, mais bon...
Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Bon, est-ce qu'il va le faire encore? Ça, c'est une autre question.
On en reparlera. Mais...
En répondant à la question du sieur Paolo, qu'est-ce qu'on change? Moi, j'aimerais bien qu'on ait une équipe...
Merci, Gigos. Qui... Enfin, la question posée. Non,
une équipe, alors, je sais pas, au niveau entraîneur, je sais pas si on trouvera aussi bien que Furlan, enfin, aussi mauvais que Furlan, ou pire. Enfin, mauvais, bon, on sait pas, de toute façon, l'entraîneur...
On est pire, hein, Furlan.
Moi je suis pas spécialement Furlan était mauvais, mais ce que je voudrais par contre c'est une équipe qui soit là dans les grands rendez-vous et qui soit. Moi j'ai envie d'avoir une équipe qui tient le nul, qui tient un nul à l'extérieur, à Lens, quitte à jouer comme des merdes, qui arrache des nuls, une équipe qui se batte et pas du bon jeu ou quelque chose. Une vraie équipe de bourrin quoi, et qu'est-ce qu'il faut pour remonter hein.
Non, c'est clair, tu es d'accord avec moi. C'est changer un peu la philosophie, déjà renforcer la défense. Hein.
Voilà, une équipe défensive, alors est-ce qu'il faut...
Ah, enfin, mon message est entendu, une équipe défensive, oui, enfin, oui.
Bah, écoute, c'est comme ça que oui, beaucoup...
Mais pas que.
Et rétablir les passes entre au gardien.
Voilà, on rétablit la victoire à 2 points et la passe au... et l'interdiction de la passe au gardien et on remonte. Hein.
D'ailleurs, j'ai pensé à une chose tout à l'heure, bon, c'est pas maintenant, justement au niveau...
Ça répond à la question de Paolo.
Ce qu'on change, non, mais c'est comme tu parlais de la défense, donc au niveau de la défense... j'ai pas pu voir le match contre Boulogne parce que encore une fois je travaillais, mais j'ai lu sur le fou pas mal de réactions qui disaient que Chelesi, bon, qui a pas été irréprochable sur l'ensemble de la saison, a fait un bon match. Du moins c'était un des moins mauvais à Boulogne.
À Boulogne, ouais,
donc là c'est. Moi j'étais surprise quand il a pas été aligné contre Reims et contre Montpellier. Si déjà le joueur fait un bon match. Autant l'aligner derrière, il a fait une performance qui est bonne, donc lui donner sa chance sur le match de derrière. Et je pense que Furlan, il a eu du mal à faire ça aussi cette saison. C'est pas le premier match, il avait fait la même chose avec Traoré aussi, qui était en pleine bourre, qu'il n'a pas mis en titulaire le match d'après, alors qu'il avait mis sur 2 matchs plusieurs buts. Enfin voilà. Et c'est des petites choses comme ça que je reprocherais en fait à Furlan de ne pas toujours aligner forcément la meilleure équipe qui puisse. Aligné en fonction des affinités, on sait très bien qu'il y a des affinités avec Paisley et des joueurs comme ça, donc changer d'entraîneur ça serait déjà pas mal.
Bon, ça va être fait ça.
Et après, au niveau joueur, qu'est-ce qu'il y a comme piste que le Racing peut explorer là?
Je sais pas.
Ouais.
Je vois pas qui on peut recruter, sachant qu'on n'a même pas d'argent pour boucler le budget.
Sûr, non, on a des idées.
Moi j'ai mes idées, mais... Bah, préférence.
Vas-y.
La
parole est à Marc.
Bah, non mais moi je me. Enfin, parce que moi j'aime bien les mecs qui gueulent.
Oui.
Donc j'annonce officiellement.
Johansson.
Non, rien à voir. Je parle pas de traître moi, parce que moi quand tu vas jouer à Metz, tu reviens pas, surtout quand t'es alsacien.
Tu parles des joueurs ou de l'entraîneur?
De l'entraîneur là.
Donc t'es contre Poliquin aussi.
Ouais.
T'es contre Grasse.
Ouais. Non mais Grasse c'est pas pareil.
Non mais Grasse c'était un Metz.
Oui, d'accord.
Voilà, c'est.
Non mais moi j'aimerais bien.
T'es contre Batique là.
Non mais laissez parler Marc.
Oui.
Zité.
Non Zité il a joué
à Metz avant.
Non il y en a plein, mais il y a des Nyon qui étaient à Metz avant, tout ça. Non mais
Marc, les
David Régis aussi.
S'il vous plaît, laissez parler. Gigos.
Pip PC.
Et je suis contre Paisley.
Voilà.
Enfin on est tous.
Marc a aussi fait 6 mois à Metz et. Enfin 6 mois, non, il fait sa formation et tout ça. Bon. Après.
Mais quelles sont tes idées là?
Non mais moi, en entraîneur, non, j'ai des pistes, non, mais en entraîneur, un mec comme
Windows.
Non.
Bon allez, mais laisse-le dire, moi je veux savoir qui est entraîneur.
Comme non, je sais pas s'il va être. Mais moi j'aime bien par exemple Fernandez de Reims.
Fernandez, parce que ce mec.
Ce mec, il va quand même à Reims en Ligue 2, je lui dis, il aime plus ou moins les défis, parce qu'il va Bétis pour essayer de le sauver, il va à droite, à gauche, voilà, pourquoi pas chez nous? Ce mec, il gueule, ce mec, il peut traiter ses joueurs de merde, il en a rien à foutre.
Est-ce que,
Est-ce que c'est moi, c'est ce que j'aime.
Mais est-ce que c'est la c'est ce que t'aimes, est-ce que c'est la solution, quoi?
Oui, mais, moi, mais on a chaque fois d'être trop gentil.
Mais j'ai pas l'impression que, bon, l'histoire de l'argument furlant qui se lève pas du vent, qui gueule pas sous ses joueurs, tout ça, par mais rapport.
C'est pas le premier.
Oui, mais c'est, j'ai l'impression que c'est un argument en carton, parce que s'il suffisait d'aller gueuler sur ses joueurs et d'insulter ses joueurs à la fin du match, en début de match, à la mi-temps, pendant le match, et encore les jours où ils ont pas entraînement, je veux dire, c'est trop facile, quoi.
Je pense pas que Fernandez il soit pas moins
Fernandez a échoué,
de ses joueurs.
Mais Fernandez a échoué à Reims,
pas lamentablement par contre.
Non, oui, non, mais non, attends, non. Il est en pleine saison, c'est bon, oui, il faut arrêter aussi.
S'il leur avait pas enlevé les 3 points contre Brest, la donne aurait déjà été un petit peu différente. Et il a quand même accumulé pas mal de points sur la période où il était là par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc on peut pas dire qu'il a vraiment échoué, il a pas fait la saison entière là-bas.
Conan.
Ben, en termes d'entraîneur gueulard, bon là le mieux placé pour remplacer Furlan, ça serait Guernot Rohr. C'est pas quelqu'un de particulièrement urbain en général. D'après les souvenirs que j'en ai, hein, et
d'ailleurs, ça j'ai pas un souvenir fou, mais si c'est comme ça.
Bah, Guernot Rohr, pas, il y a pas de souci sur Guernot Rohr, Conan. Pourquoi lui?
Bah pourquoi lui? Parce que bon, on l'a déjà dit tout à l'heure, copain avec Pierre Ginesté, a priori. Copain avec José Cobos qui est un ancien Strasbourgeois, donc qui reviendra en tant que directeur général.
Bon, apparemment, ça c'est source l'Alsace.
Oui, bon, mais a priori c'est l'hypothèse qui est à la mode, mais bon, c'est vrai que José Cobos c'est quelqu'un de très attaché au Racing.
Ouais.
Guernot Rohr, bon bah il le dit lui-même que lui, voilà, ça le botterait bien d'habiter peut-être pas loin de sa famille à Mannheim. Bon, donc il ne nie pas.
Donc plus les critères extra-footballistiques.
Mais le critère,
mais ça joue beaucoup aussi,
le critère intra-footballistique, si tu avais écouté ce que j'avais dit tout à l'heure, j'avais dit.
C'était hors antenne. Hein.
Non, c'était en pleine antenne. J'avais subtilement glissé les noms de Joao, les noms de Rodrigo et les noms de Marcos.
Il a même dit que c'était pas.
Et que j'avais pas cité ces trois-là de façon innocente. Pourquoi les ai-je cités? Simplement parce qu'il s'agit de Guernot Rohr qui a soufflé ses trois noms à Pierre Ginesté pour les recruter. Parce que Guernot Rohr les avait sous ses ordres, que ce soit à Ajaccio ou en Suisse.
À Berne.
D'accord.
À Berne.
Et est-ce que toi tu serais pour Guernot Rohr entraîneur du Racing la saison prochaine, quoi?
Je suis pas plus enthousiaste que ça.
Pourquoi justement? Parce que là tu fais l'éloge rapide de Guernot Rohr et tu...
Bah je fais l'éloge rapide, non, voilà, je dis les qualités, je décris le personnage, après bon c'est jamais quelqu'un qui m'a fait grimper au plafond dans les clubs précédents où
j'étais. Est-ce qu'on peut avoir un entraîneur qui va me faire grimper au plafond?
Voilà,
sachant que...
Exactement.
Non mais femme.
Et pourquoi pas une
femme? Moi je veux bien y aller si vous cherchez quelqu'un.
Qui entraîneur? Jess entraîneur,
Jess, ça serait bien.
Tatoune entraîneur, je sais pas, Princesse entraîneur.
Non mais ça serait...
Oula.
C'est vrai que ça serait une expérience... Hein, c'est vrai que... Moi je comprends pas que l'idée serait si bête que ça. Hein.
Bah non, elle est pas bête. Hein,
ça serait à creuser. Hein.
Elle est pas bête.
Mais ce que je veux dire... non, mais Guernot Rohr, bon moi c'est pas quelqu'un avec qui j'ai plus d'affinité que ça. Maintenant j'ai rien conclu. Là.
D'accord. Donc,
pourquoi pas, justement, pourquoi pas essayer. C'est vrai que c'était quelqu'un qui était réputé plus...
tendance avec Nice,
défensif, c'est un ancien joueur bordelais aussi.
Il a
entraîné Bordeaux, il a amené Bordeaux en finale de la Coupe de l'UEFA, c'était lui qui était en 96. Hein.
Si moi j'ai Bordeaux, c'est pas ma tasse de thé.
Moi non plus, mais voilà, je regarde le foot des fois un peu.
Et... Non mais oui, il a fait des trucs à peu près corrects avec les Bordelais, on avait gardé
un peu. Surtout avec Nice en D2, moi je me souviens de cette histoire de
remonter de Nice.
Il a remonté Nice et quand même il y avait une espèce de symbiose assez impressionnante. Exactement. Dans l'équipe de Nice avec l'entraîneur.
Avec Xavier Cobos, capitaine.
Ouais.
Et donc c'est vrai que le profil en plus Guernot Rohr, en plus c'est un Allemand. On a toujours le fantasme de l'Allemand à Strasbourg, toujours des joueurs allemands, pourquoi pas un entraîneur allemand, ouais, effectivement, pourquoi pas.
Bah, c'est vrai quoi.
Après on s'étonne qu'on a des banderoles derrière. Mais ce que je veux dire.
Paradoxalement, ça fait plus de je sais pas combien d'années qu'on n'a pas eu de joueurs ni d'entraîneurs d'Allemagne.
Enfin on a eu c'était un essai, mais c'était Kredivovic.
Oui, à l'aise.
Le dernier joueur allemand, ça devait être Zoche, non?
Qui ça?
Ça devait être Zoche.
Mais c'est 91 ça, non?
90, 91 par là. Uwe Zoche. Le dernier entraîneur allemand qu'on a eu, ça devait être Zundermann dans les années 80.
Ouais, donc ça fait long. Ça fait long. Ok, bon.
Est-ce que, alors, je rebondis, tiens.
Gigas.
J'aime bien rebondir sur la
table. Allez, Gigas.
Est-ce qu'il n'y a pas un entraîneur étranger à aller chercher quelque part, une méthode un peu différente, parce qu'on dit soit alors Strasbourg, peut-être pas revenir encore à la banderole, mais on est quand même un club un peu à part. Est-ce que justement il n'y a pas une rigueur germanique ou un entraîneur autrichien? On sait que les entraîneurs autrichiens ont bien réussi à l'époque. Au Racing dans les années 30.
Je sais pas, est-ce que tu as un entraîneur autrichien en tête?
Non, mais le seul
autrichien dans les années 30, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Hein. Ouais.
Le seul autre nom étranger, je crois, c'est le même que Monaco, là, non? Un anglais ou je sais pas, un ancien joueur de Monaco. Oui. John quelque chose.
John Toshak.
John Collins.
Collins, je crois, ouais.
Ah, Collins.
Je crois qu'il est dans. Il est pas dans la liste des éventuels, j'ai cru voir
entraîneur?
Ça.
Ouais.
Ah,
étonnant
ça.
Collins. J'ai regardé la liste des plus ceux qui seraient ciblés, et il y a le même.
Bon, c'est le capitaine de l'équipe d'Écosse. Hein.
Au niveau entraîneur étranger, c'est plus un fantasme qu'une réalité, mais s'il y en a un que j'aimerais bien voir faire mener à la baguette les petites starlettes du Racing, c'est bien coach Vaïd.
Bon, il est en Côte d'Ivoire là.
Ouais, ouais, non mais bon quand même.
On va parler de Carlos Bianchi aussi un peu de retour en France, pas du tout Racing.
Tu sais que Bianchi il a fait une très grande carrière d'entraîneur. Hein.
Oui, je sais.
Il a entraîné la Roma, il a entraîné, bah, c'était lui qui était entraîneur de Vélez Sarsfield à l'époque où il y avait Chilavert.
Et qu'est-ce qu'il vient Bianchi là?
Je sais pas du tout.
Non mais je crois qu'il était à River, il était retourné à River, après il est reparti un peu. Mais il me semble qu'il était annoncé en France ou en Europe du moins. Donc
je le vois pas venir à Racing. Hein. C'est quelqu'un qui est réputé quand même des meilleurs entraîneurs mondiaux.
Mais je pense que pour...
Ah bah faut le payer.
On a
même pas de sous pour garder Jean-Alain Fonchon, si tu veux payer Bianchi.
On le paye avec de l'amour du club.
De l'amour du club.
Vivement qu'on trouve un entraîneur, une équipe qui est aussi punk que le club. Quoi.
Attends, Carlos Bianchi.
Les mecs qui viennent pour rien, mais qui disent tiens, ça je vais le faire.
Carlos Bianchi, il s'est fait jeter comme un mole propre quand il était au Racing.
Qui ça?
Carlos Bianchi, quand il était au Racing, ouais. Il s'est fait jeter comme un malpropre, il y a une classe qui ne le titularisait jamais. Tu crois qu'il a un bon souvenir de Strasbourg?
Il a peut-être une revanche.
Là, peut-être qu'il a aimé la ville, parce que souvent les joueurs aiment la ville, aiment pas le club, mais aiment la ville.
Enfin,
je pense qu'il faut vraiment prendre un entraîneur qui change de furlan, un entraîneur un peu... Enfin, moi, je suis fan aussi des entraîneurs grande gueule, comme disait Marc avant, tous ces gars.
Vous allez être content avec croire.
Non mais s'il vient c'est bien.
Pas, hein.
Mais je pense que ça change quand même pas mal la donne aussi avec certains joueurs, ça dépend. Mais quand maintenant pour. Enfin un exemple, quand on voit Guéretz à Marseille, il y a eu quelques petits problèmes internes avec Ben Arfa qui essayait de faire sa grande gueule avec son ballon en guise de tête. Guéretz l'a quand même bien remis à sa place et ça n'empêche pas que l'OM a joué le titre jusqu'au bout et termine à 3 points de Bordeaux et vice-champion de France sans que tous ces petits problèmes internes aient une incidence sur les résultats. Donc je pense qu'un entraîneur comme ça qui a de la poigne et qui arrive à remettre les joueurs dans leur droit chemin quand il faut, c'est pas plus mal.
Quelque chose à rajouter alors les joueurs, l'entraîneur, le staff, le président, les actionnaires, les après on est déjà pour info à 1h12 donc
c'est descente exceptionnelle.
Il n'y a pas de quiz donc
encore oui.
Il n'y a pas de quiz.
J'ai pas envie de faire un quiz là, tu crois que j'ai envie de m'amuser moi?
ça fait une heure qu'on se marre mais bon c'est pas grave.
Donc là, ouais, l'entraîneur,
on peut y aller alors.
L'entraîneur, moi je veux.
Allez, on va se donner comme objectif 1h30. Hein.
Ok.
Il reste
le président.
Les joueurs.
Il reste 17 minutes.
Bon, les joueurs, on a évoqué les joueurs. Déjà, il faudra garder.
Pas avant Fanchon, Jean-Lin Fanchon, surtout pas.
Sachant qu'on a Auton.
Mais non, et alors les trois joueurs d'après les Dena Monéiales, Auton, Fanchon et Coad.
Mm-hmm. Et Pesté, faut le
faire. Non mais Pesté, il n'a pas mis, c'est pas marqué, il n'est pas monnayable, on est non.
Il n'est pas monnayable, il est vieux.
Ouais, non, mais
il porte malheur.
On a besoin d'argent.
On a besoin d'argent.
On a trois joueurs vendables, il y en a deux qui jouent le même.
Non, moi je dirais à la place, Auton, il faudrait. Enfin, si on garde. Il faut en garder un des deux. Jean-Alain Fanchon, soit Auton, dans tous les cas.
Moi je veux dire, pourquoi il faut garder les deux alors? Parce que on se. Donc pourquoi? Parce qu'on a deux joueurs qui éclose, explose, et on va les vendre. Si on les vend, c'est un signe fort que le club se meurt et ne fera jamais rien. Si on a un joueur qui fait une semi-bonne saison en Ligue 2 et qu'on est obligé de le vendre tout de suite, genre c'est quasiment l'année, elle est finie avant d'avoir commencé.
Je pense qu'en fait sur les joueurs monnayables, on peut peut-être ajouter. Non, mais il est en fin de contrat, lui, non ?
Qui ça ?
Chez Lazy.
Chez Lazy et James Fanchon sont en fin de contrat,
ils sont. Donc, à mon avis, oui, ils vont partir. Quoique.
Enfin, James Fanchon.
Quoique, chez Lazy, ça dépend du nouvel entraîneur. Je pense qu'il y a, beaucoup, il y a beaucoup de joueurs dont le destin est lié à l'annonce du nouvel entraîneur. Donc, ça serait bien de le nommer rapidement.
Enfin, ce que Furlan disait, il a dit que beaucoup de joueurs donneront leur décision selon si voilà. Tout s'y part. Hein.
Ouais.
Mais ils savent que Furlan va partir.
Bon, maintenant. Mais ça, c'était une interview d'avant-match. Donc non mais ça veut aussi dire qu'il y a effectivement peut-être beaucoup de joueurs qui étaient pour Furlan.
Parce qu'il y a aussi. Il y a eu des joueurs blacklistés par Furlan aussi. Hein. Je vais te donner un exemple, il y a Gasmi qui va revenir de son prêt de Southampton.
Et Damour qui a quasiment jamais joué.
Bon ça pour d'autres raisons, mais Gasmi, voilà.
Il y a Matuti qui va revenir aussi. Matuti
qui
va revenir.
Il est encore.
Il a encore deux ans de contrat, Matuti.
On a l'impression qu'il a signé un contrat de 10 ans. Quoi.
Il est tellement bon que 15 ans de contrat.
Quelqu'un vous a remarqué que Matuti, par contre, lui, sous Papin, avait été plutôt tonique, décisif dans son niveau de Matuti.
C'est lui qui marque à Bastia.
Ouais, voilà, donc pas mauvais. Enfin, pour la Ligue 2, et sous Furlan, par contre, il avait vraiment pas du tout, il était... Enfin, on sentait que ça passait pas, je pense.
Non, mais il y a plein de joueurs. Et moi, pour revenir, bon, voilà, on a les deux premières recrues, ça sera Weber et Gasmi. Alors, Weber, hein, on peut raisonnablement penser qu'il a progressé, hein, Paris FC.
Je pense qu'on n'a pas le choix. Hein.
A priori, il a fait des bons matchs en national, ils étaient contents de lui. Je crois même qu'il était capitaine, hein, là-bas.
Weber, mais Weber, les quelques matchs qu'il avait fait aussi en Ligue 2 avant qu'il parte...
Pas mauvais.
Ouais, il m'avait...
Pas mauvais.
Je trouvais que pour des premières prestations, il était pas mauvais et qu'il y avait quelque chose à faire avec lui.
Après, il y aura Gasmi. Bah, Gasmi, ça dépend beaucoup de lui. Est-ce qu'il a pris du plomb dans la cervelle tout simplement. Il a vécu une année de galère en Angleterre, peut-être que ça va lui mettre les pieds sur terre.
Ça va nous faire une Carlier.
Et
je reviens plus fort de Guignon.
Ouais, mais...
Et Carlier justement, il a été vendu,
lui, fini,
ou il est vendu, donc lui il revient plus, d'accord.
Il reviendra plus
jamais.
Bon, il aurait peut-être pu servir aussi en fait.
Alors après, rayon départ, donc a priori il y aurait James Fanchon, déjà, hein, on l'évoquait, hein, a priori lui voudrait jouer à l'étranger.
Bah qui lui grand bien lui fasse.
Ouais mais attends, mais c'est pas dit qu'il trouve un club, mais bon à mon avis, quelqu'un qui a marqué, il a marqué combien de buts
13. 13 buts en Ligue 2. De Strasbourg.
Meilleur buteur de Strasbourg,
ouais, à mon avis,
il trouvera.
Moi je pense que Fanchon, il est pas irréprochable, c'est pas comme tous les joueurs sur l'ensemble de la saison, mais...
Coad, vous voulez le garder ou pas
bien qu'il reste.
Non mais Coad, il mérite pas de rester parce que...
Coad, il doit partir.
Il a fait deux saisons en Ligue 2, il mérite d'aller tenter sa chance.
De toute façon, Coad, c'est un des joueurs qui, d'un point de vue financier, peut rapporter le plus. Donc déjà, vu la situation financière, c'est lui qui va être vendu le premier. Quoi.
Il est monnayable et après, à lui de tenter sa chance de prouver qu'il peut jouer en première division avec un niveau correct. Moi, je souhaite de réussir. Hein.
Ah, nous, on n'a pas envie de le voir partir, effectivement, c'est sûr ça. Mais pour le joueur, ça fait deux ans qu'il est sur le chaque fois à deux doigts de partir. Et je pense que là, c'est sa saison, quoi, je veux dire.
Non, non, faut le libérer, quoi. Il faut qu'il parte, maintenant.
On n'a pas envie, mais il faut, parce que juste pour lui, quoi. Je veux dire, le mec, il va pas rester 8 ans encore en Ligue 2, alors qu'il a quand même un gros potentiel, quoi.
Et Traoré, on le garde ?
Bah lui, c'est à qui que non.
C'est pas
possible. À qui que non ?
Non, mais il est trop cher.
Il restera pas.
À moins que Sochaux...
Bah, c'est une brève du Stoub.
Qu'on fasse un échange avec PSG.
Ouais, mais ça a été démenti.
Ça a été démenti.
L'Alsace qui avait encore écrit du mytho.
Non, mais alors là, l'Alsace n'avait pas totalement tort. L'Alsace, en traînant un peu autour du club, ils doivent savoir qu'aucune négociation était entamée avec Sochaux et Strasbourg. Même en Ligue 1, n'avait pas franchement les moyens de se payer Traoré, donc en Ligue 2, encore moins.
Ouais, bon,
c'est dommage. Par contre, on peut rendre hommage à Candia Traoré, qui lui a joué jusqu'à la dernière minute le coup alors que c'était le joueur peut-être le moins concerné.
Exactement.
Et il a quand même joué le coup pour un joueur prêté, il l'a joué à fond, il a fait des matchs moyens, il a fait des très bons matchs.
Grosse combativité quand même sur les derniers matchs avec beaucoup de dépenses d'énergie pour récupérer le ballon, y compris au milieu de terrain, en défense.
Je le regretterais beaucoup moi.
C'est vrai que moi j'étais sceptique à son arrivée, le premier match que j'ai vu, les deux premiers matchs peut-être, j'étais assez sceptique, mais... Mais là, comme dit Conan, moi c'est pareil, je le regretterais aussi à son départ, parce qu'il avait vraiment la combativité qu'il fallait à notre attaque.
Mais là, ça dépend de lui, parce que si lui, imaginons, a envie de rester, si, je sais pas, il se dit...
ce qui est pas exclu, hein, 28 ans, il se sent bien à Strasbourg.
S'il avait envie de rester, moi je serais pour le garder, parce que j'ai été impressionné par sa débauche d'énergie.
Je divise mon salaire quoi. Par 3.
Oui, bon, c'est ça. À lui de savoir ce qu'il veut, quoi, ça c'est sûr. Voilà.
Ça pas fait mal.
Ça, c'est clair.
Sinon, la Cour a annoncé dans Europe 1 à Lorient.
La Cour à Lorient, vous y croyez ?
Moi, j'y crois pas.
Non ?
J'y crois pas, mais comme disait quelqu'un, je sais plus qui, sur le tout, juste avant que je vienne ici, si la Cour s'en va, c'est la fin, quoi.
Ah, c'est moi.
C'est toi ?
C'est moi.
Ça tombe bien.
Moi, je disais que si la Cour pré-émission, ouais, effectivement,
c'était pas prévu, mais
si la Cour part,
c'est la fin de tout, quoi. C'est-à-dire que on est enfoncé en Ligue 2. Mais si même les... Alors effectivement, il y aura toujours des débats sur la Cour, qu'est-ce qu'il apporte au Racing en tant que joueur. C'est-à-dire, c'est pas le meilleur chaque année. Mais moi, des mecs comme ça, moi, je signe pour qu'il reste jusqu'à sa fin de carrière. Hein. Non, mais parce que ça manque, le foot, ça manque un peu de mecs à la Maldini, à la Raoul, qui sont dans un club et qui jouent pour un club, quoi.
Ouais, mais bon, il y a bien un club qui va découvrir un jour que c'est un bon joueur.
Visiblement, à Lorient, ils disent qu'à Strasbourg, il n'y a pas de talent, il y a des joueurs qui sont pas si mauvais que ça.
Il faut leur marcher.
Mais je pense qu'après après avoir découvert Gamero, la petite paire, exactement, ils ont vu qu'il y avait du potentiel à Strasbourg.
D'avoir un informateur qui leur dit si les joueurs sont cons ou pas.
C'était comme à l'époque, il y avait Marseille qui pillait le Racing, non, ça va être
c'est Lorient. C'est-à-dire qu'on est encore baissé.
C'est vrai que c'est un changement d'échelle.
Bientôt, c'est Boulogne hein, qui va piquer nos joueurs. Hein.
Attention, hein. Sinon, il y a encore une question, c'est préparation de la succession de Cassard.
Bah, Régis Gürtner a re-signé.
Ouais. Mais certainement,
c'est une bonne...
Direct.
Il paraîtrait.
Ah, mais ça serait mieux, parce que je pense que
Régis Gürtner...
Voir ce qu'il vaut, quoi.
Ah, bah, ouais, voilà, il peut pas montrer, et je pense qu'à Strasbourg...
On va le prêter à Ferrel.
On devrait le prêter à Boulogne, tiens.
Moi, j'aime bien Kevin Sommer, hein,
non, Gürtner, non,
moi, c'est le gardien d'Amiens, moi, que j'aimerais bien récupérer. Là.
Donc, comment il... Quoi c'est bienvenu
en... Oui, bienvenu, je sais pas quoi.
Ah. Bienvenue chez Ch'ti, c'est...
Ouais. Non, mais, je sais pas, moi, il m'a tapé dans l'œil.
Bienvenue chez Pika. Bon dîner,
là, alors, moi, j'ai une question que j'ai envie de soulever, peut-être en guise de conclusion à l'émission, c'est...
On n'a pas fait les actionnaires.
On n'a pas fait les actionnaires.
Oui, c'est le côté... Justement, c'est le côté interne, c'est le côté... On a quand même l'impression que cette saison, finalement, bon, elle s'est jouée sur le terrain, sur des coups du sort, etc. Mais elle s'est aussi jouée en interne avec des dissensions, des problèmes, etc. Alors on n'y comprend rien, parce qu'en tant que supporter, nous on ne nous dit rien. La presse nous révèle que des conneries. On ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi y a-t-il tout le temps des tensions entre ci, entre ça, entre tel secteur, entre l'entraîneur, entre le manager, bon, en l'occurrence c'était le même, mais le président, enfin je sais pas. Mais qui ?
Je pense que pour comprendre déjà ce qui se passe au sein du club avec l'entraîneur, le président, tout ça, il faudrait déjà comprendre en fait un petit peu à quoi sert et quel est le rôle de Kirat, que moi personnellement j'ai pas compris pour l'instant exactement à quoi il servait au sein du club. Et en fait il y a pas mal de choses comme ça qui font qu'on ne sait pas qui réellement décide de quoi. Là c'est le recrutement, prend des joueurs, Furlan ne les veut pas, il y a un manque de communication. Et je pense qu'il faudrait savoir déjà pourquoi du comment ces choses-là se passent comme ça, parce que le club pourrait être plus sain et les résultats du coup forcément meilleurs si il y avait une meilleure
entente, quoi.
Voilà. Au niveau du staff. Du staff technique.
Bon, moi, le truc qui me frappe, c'est j'ai l'impression de revenir 2 ans en arrière quand papa est parti.
Rien n'a changé en 2 ans.
On regarde le discours de Papin, même le discours que Papin tient aujourd'hui hein, à l'égard de Strasbourg. On lui dit, pour résumer, hein, que finalement, il a des bons souvenirs à Strasbourg, que ça se passait bien, sauf avec une ou deux personnes. Et là, Furlan, il a quand même balancé la même chose, quoi.
Ah, est-ce que c'est les deux mêmes personnes, mais est-ce que ça a changé, c'est d'autres personnes, qu'est-ce que...
Je vois pas pourquoi, étant donné que c'est les mêmes personnes qui sont en place, je vois pas pourquoi ça serait pas les mêmes personnes.
Bon. Donc il y a des têtes à faire tomber en interne, quoi, c'est ça.
Bah, Herzog, il est payé pour faire le gars que... Enfin, pas sympa, hein, c'est son boulot.
C'est vrai.
On lui demande donc forcément, ils vont pas l'aimer. Après, Kirat, il est payé pour venir un petit peu... Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un peu le relais de Ginesté, puisque Ginesté n'est pas ni fouteux, ni présent assez. Donc c'est Kirat qui est un peu...
Herzog.
Non. C'est Kirat pour le Sporting, Herzog, la Thune. Ouais, et donc bah forcément, des gars comme Furlan ou JPP, quand on leur dit, quand on leur tape un peu du poing sur la table, ils sont pas contents.
On sait que les entraîneurs sont pas assez dociles, c'est ça?
Bah c'est surtout qu'ils n'ont pas de résultats, alors forcément on leur fait pas de compliments.
Mais un autre truc c'est que.
Papa les avait des résultats puisqu'il est monté.
Papa il est monté un peu avec. Enfin, en produisant le même niveau de jeu que Furlan. Enfin,
pas d'accord.
Bah, les deux équipes n'étaient pas... À mon avis, si on fait s'affronter l'équipe Papin contre l'équipe Furlan, on obtient un 0-0.
Papin gagne pour moi. Enfin bon, bref. Marc,
sans Furlan. Je veux pas forcément faire différence Papin. Enfin, équipe Papin, équipe Furlan. Mais à l'époque, Papin, c'était l'entraîneur. Ouais. Donc, il s'occupe de l'équipe. Ce qui a changé quand même, théoriquement, c'est que là, on n'a plus un entraîneur, on a un manager.
Ce qui n'était pas vrai, en fait.
Ce qui veut dire que... Il devait s'occuper aussi bien du centre, des jeunes, que de l'équipe pro et tout ça. Donc Furlan aurait dû avoir un peu plus de mainmise sur l'équipe, sur ce qui se passe aux alentours. Et visiblement, même là, même avec ce rôle-là,
c'est vrai qu'on a l'impression qu'il s'est comporté presque exclusivement comme un entraîneur. Quoi. Il a
mais oui, mais alors est-ce qu'on lui a pris cette casquette, est-ce qu'on lui a laissé le choix,
oui.
Et ou alors est-ce qu'il prenait une décision, on lui disait, alors que ce soit un Kirat, un Herzog, il lui dit non, ça se passe pas comme ça. C'est là où il faut peut-être mettre les points sur les i. Est-ce qu'il avait ses pleins pouvoirs par rapport à un manager général ou est-ce que c'était un simple entraîneur? Mais je pense qu'il y a quand même une petite différence au final.
Mais ça, faut qu'on le sache, tous les supporters. Non,
il faut des noms, il faut qu'on aille voir les gens.
Il faudrait une fois mettre les choses à plat et que le président, que quelqu'un...
Hein, faut aller à l'entraînement.
Parce que Jean-Luc Herzog et Kirat...
Ils font beaucoup de choses.
Oui.
Kardinestel, il est souvent.
Oui, d'accord, mais enfin bon, c'est pas parce qu'il y est que...
Kirat aussi, tu peux discuter.
Oui, mais
tu peux discuter de l'appui du bouton, mais il va pas te dire comment ça se passe dans les...
Oui, il y a certaines personnes avec qui discuter, qui savent des choses.
Mais bah, pourquoi finalement rien ne change alors si les gens savent.
Les gens savent.
Les gens savent ce qui va pas et
on si tu vas les voir, tout le monde se renvoie la balle. Hein.
Voilà,
Kirat, il va te dire, ah non mais moi j'ai fait ça pour ça, il va donner les côtés positifs, mais Furlan ou les joueurs, ils vont dire, ah oui, non mais il y a eu aussi ça.
Mais donc il était à faire tomber l'une. Il y a un camp ou l'autre qui doit.
T'es sociologue, tu sais bien comment ça se passe dans une organisation.
Oui, je sais justement. Voilà. Donc il faut faire en sorte de quand même.
Donc il faut que des têtes tombent, c'est pas. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Ça,
bien sûr c'est plus compliqué mais en l'occurrence j'ai l'impression qu'il y a deux camps, il y a deux clans, il y a deux qui est du conflit multipolaire pour l'affaire sociologique. Effectivement ça peut permettre une émulation d'ensemble mais un conflit bipolaire ça crée forcément de la destruction.
C'est pas forcément un conflit bipolaire, c'est pas un tel contre un tel qui est, voilà, qui sont ennemis parce qu'ils s'aiment pas. Simplement il y a des divergences d'intérêts, des intérêts personnels, intérêts de carrière. Peut-être des gens qui veulent être un peu à la calife à la place du calife. Il y a peut-être aussi des mauvaises déterminations des charges de chacun. Donc ça fait qu'il y a empiètement entre le terrain. Par exemple, ben voilà, quel est le domaine de compétence d'un Furlan par rapport à un Pierre Ginesté ou par rapport à un Herzog. Donc ça c'est ce qu'on a vu, les difficultés au niveau du mercato.
Marc.
Mais ce qui fait peur, c'est que quand tu lis certains topics sur le Stuhl, c'est de voir que certainement certains proches du club seraient même voire contents de voir le Racing chuter. Pour justement des intérêts un peu trop personnels.
Quand tu vois que
on n'est même plus là dans la divergence d'opinion. C'est des gens qui sont contents que le Racing reste en Ligue 2 ou qu'un tel échoue. Alors que nous, en tant que supporters, on voit le club en général.
Des supporters qui sont contents que Ginesté et Furlan se plantent. Hein. Ils n'ont pas été... Parce qu'ils ne les aiment pas, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas compétents. Alors en disant, bah voilà, ils sont plantés, je le savais, c'est mieux qu'on recommence.
Et là, c'est au niveau supporter. Alors imagine tes salariés là-bas.
Imagine des gens qui ont pas le pouvoir, parce que c'est facile de dire ça va pas sur le Stuhl, mais quand tu peux jouer quelque chose et qu'on te dit non ça marche pas, bah, quand l'autre se plante, t'es quand même content de lui dire bon bah maintenant c'est moi qui vais te montrer comment ça. Enfin j'imagine que c'est des choses comme ça. Ce que je voulais dire,
mais nous en tant Donc nous on n'est pas acteurs réellement, on est...
Oui, on n'est pas acteurs.
Justement, en tant qu'acteur...
Spectateur, merci.
Quand t'es acteur, c'est pire.
Non, c'est pire, bien sûr, mais nous en tant que spectateur, on peut juste dire...
On est spectateur, c'est ce que j'ai dit. On est un peu, mais on n'est pas trop.
Enfin, moi, ça me fait mal de voir que, théoriquement, on devrait être tous dans le même bus et que le Racing soit le plus possible.
Avec Suzanne au volant.
Et là, non. Quoi.
Ouais, ce que dit Conan, effectivement, bon, l'histoire de Chaka qui lutte pour son propre domaine d'attribution, pour ses propres ambitions, etc. Ok. Mais bon, il y a un engrenage qui fonctionne, qui Pourquoi au Racing, parce qu'à l'ailleurs, il y a aussi des directeurs financiers, il y a aussi des entraîneurs.
Bah, PSG, ça marche pas, ouais. Sauf qu'ils ont 10 fois plus de fric, donc forcément. Il y a combien de clubs à Metz, ça marche pas non plus.
À Marseille, ça marche.
Tu crois qu'à Lens, ça marche, parce qu'ils sont remontés en mettant, ils ont fait comme nous en 2000. Année papa, hein, 2003.
C'est vrai que ça marche nulle part, quoi.
Bah non, alors, le gros problème, ça marche nulle part parce que au Racing...
C'est pour ça que t'as dit...
Ça marche à Barcelone.
Ça marche nulle part, c'est aussi pour ça que t'as des Le Mans, t'as des Lorient, t'as des Grenoble, t'as des Boulogne en D1, quoi.
Ça, il y a toujours eu.
Il y a toujours eu,
à l'époque, il y avait des Tours, il y avait des Rouen, il y avait des Laval en D1.
Oui, mais c'était une période où tu n'avais pas les mêmes enjeux financiers, économiques, etc.
Les choix sportifs
priaient beaucoup plus
sur les stratégies individuelles.
À l'époque aussi, tu avais des luttes de pouvoir.
Oui, mais moi, sur le côté économique, moi...
T'avais juste point de sous, mais t'avais toujours autant de chicaneries. Regarde en 70.
Oui, non, mais en 70, mais le Racing, ça a toujours été comme ça.
Regarde le Racing.
Oui, mais le Racing, c'est pas le meilleur exemple pour...
C'est l'exemple qu'on connaît. Mais regarde le Racing, c'est tout. Simplement, pour moi, l'erreur, ça serait aussi de tout révolutionner. Voilà, faut couper des têtes, faut tout changer l'équipe, faut tout changer. Non, on a échoué que d'un point. On a échoué que d'un point. Donc, bien sûr, c'est un échec. Mais ça veut dire qu'on n'était peut-être pas si loin que ça de la vérité.
Bah, la vérité, c'était pas de remonter à la dernière journée contre truc. Et le club serait pas devenu miraculeusement sain.
Ça, je suis d'accord, mais ça veut dire qu'il y a quand même des choses. Il y a quand même des choses qui sont pas si mal. Donc voilà, vouloir tout chambouler. Moi j'ai un exemple en tête, hein, c'est Karlsruhe en 98 quand ils sont descendus en D2. Ils ont fait une année en D2, je crois qu'ils ont loupé la montée d'un point, je crois. Et ce qu'ils ont fait, ils ont tout changé l'équipe, ils ont tout viré tout le monde. L'année suivante, ils sont descendus en D3 allemande. Voilà. Donc, finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas, justement, faire un peu de chirurgie, essayer de déterminer qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas, s'il faut changer une ou deux personnes, on change une ou deux personnes. L'équipe, est-ce qu'il faut changer toute l'équipe? Ou est-ce que voilà, on garde quand même une base, on a des jeunes, même en CFA, on a des jeunes prometteurs, hein, les Billy, Kekteo, Fofopone, le jeune La Pulse, là, je sais pas si vous avez lu l'interview de ce jeune, donc lui, son rêve, c'est vraiment de porter le maillot du Racing à la Médo, c'est un supporter, c'est un truc. Et voilà, donc a priori, on a des jeunes, on a des bons jeunes, il y a quand même des choses, des motifs d'espoir en Racing. Et vouloir faire le grand ménage, voilà, on chamboule tout. Pour moi, c'est une erreur.
Oui, mais par contre, ce que Furlan a dit, je vais le placer maintenant, fini de parler, que le Racing, c'est un club, il n'y a pas de structure, c'est pas un club pro, on est un club géré par des amateurs. C'est ça, c'est le bordel, parce que le club n'est pas structuré, il est structuré comme en 97 ou en 96, quand un restaurateur pouvait construire une super équipe en mettant un peu d'argent. Bon bah le foot maintenant c'est devenu pro. Donc à nous de devenir pro. Alors on n'est pas obligé de tout changer, mais à mon avis, il y a commencé à faire. Alors je sais pas.
Attention, on lit son histoire aussi, hein. Le dernier qui a voulu tout changer au Racing, c'est.
J'ai pas dit qu'il faut tout changer.
Mais...
Pernod.
Hein Gardon.
Hein. J'ai compris Pernod.
Non, Bernard Gardon.
Pierre Pernod.
Voilà, c'est l'exemple, c'est Terminator, je viens, je mets tous les trophées à la poubelle, je change tout, je viens tous les gens en place. Pour moi, non, ça serait une erreur de faire ça. C'est justement, essayer de prendre du recul, de dire, tiens, ça n'a pas marché, ça a plutôt pas trop mal marché.
Est-ce qu'on peut continuer à avoir pas de directeur général issu du monde du football? Est-ce qu'on peut continuer à avoir un terrain d'entraînement en carton et s'entraîner à Lipsheim?
Ce sont des bonnes questions.
Et encore, ça c'est des trucs dont on a parlé sur le Stoub, mais
C'est des questions, à relever.
Non, moi je suis quand même plutôt d'accord avec toi. Il n'y a pas tout le monde à jeter, étant donné que, comme tu as dit, on est passé à un point de la montée en Ligue 1, donc forcément, il n'y a pas tout qui a été mauvais dans ce qui a été fait les deux dernières saisons.
Voilà.
Donc il y a des gens qui sont compétents à leur poste et il y a des gens qui le sont peut-être moins, et donc il faut arriver à trouver qui ne fait pas l'affaire, trouver quelqu'un qui puisse éventuellement pallier cette lacune et trouver bonne équipe.
Faut pérenniser le système en essayant de le rendre meilleur.
Mais il faut pas virer tout le monde et
système où on fait l'ascenseur. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Non, mais en début d'émission, je rappelais que les derniers quatrièmes de Ligue 2, c'était Amiens et c'était
3
qui sont aujourd'hui en national.
Voilà. Et alors ?
Bah...
En quoi c'est une bonne nouvelle ?
Non, mais justement, le but du jeu, ça serait d'une part d'éviter de tomber en national. Parce que moi, c'est ma crainte quand même. Toi.
Ah, oui. Non, moi, je pense pas.
Le but du jeu, c'est d'une part éviter. Donc,
non, mais je ne suis pas le fan de table rase, mais je dis le système, fondamentalement, à mon avis, il n'est pas bon.
Non, mais je dis pas, voilà, on dit la même chose, il est pas bon.
Toute façon, si déjà on devait tomber en national, on saura déjà à peu près 2 semaines avant si on y va, puisque Metz il sera déjà avant nous.
Ouais, t'as l'habitude, hein.
Ça serait vraiment horrible, on sera
avant nous. Metz à la pointe du progrès en permanence.
On aura des derniers contre le Colmar.
Allez.
Donc si Metz la saison prochaine n'est pas en national, on saura qu'on sera pas, on finira pas en national non plus.
Allez, 1h35, un petit mot de conclusion. Bon, on va arrêter de penser au national quand même. Hein. Un petit mot de conclusion, commencer par Niki, voilà. C'est décidé.
La conclusion, j'ai pas grand chose à conclure, étant donné tout ce qu'on a débattu, ça serait trop long. Donc je dirais qu'une chose, c'est aller Racing pour la saison qui vient et qu'on sera de toute façon toujours derrière ce club-là, quoi qu'il arrive.
Voilà, ça c'est beau. Marc.
Merci.
De rien.
Non, conclusion, ça va être très dur, bien sûr, toujours derrière le Racing, en espérant qu'on remonte l'année prochaine, même si toujours j'ai un pessimiste. Je suis assez pessimiste, mais ouais, faisons le meilleur, mais bon, ça va être très dur, je pense, vu les gros qui descendent, mine de rien, et puis ceux qui ont loupé la montée cette année.
Ça va, apparemment, ça va. Hein.
Non, mais bien sûr, mais je pense que c'est des clubs qui, malgré tout, voilà quoi. On s'est battu contre eux déjà il y a 2-3 années pour monter, et je vois pas pourquoi l'année prochaine, ça sera pas le même cas.
Un petit peu les mêmes rivaux qu'il y a...
Quand Ligue 2, ça fera aussi mal que nous, théoriquement, cette année, et je vois pas pourquoi ils auraient pas autant de chance que nous. Et Le Havre, pareil. Ah, donc tu rajoutes les tours et tout ça, qui, bon, c'est pas sûr qu'ils restent sur le même... Ça va même lancer, mais voilà, ça peut faire mal. Et je pense que si en plus on perd des bons joueurs et avec encore une enveloppe à 200 000 euros, là, je pense que là, ça va faire très mal.
Gigas, ça.
Je voulais dire, Proisy revient.
Oh T'as l'insulte.
Non, je savais pas quoi dire.
Voilà, merci Gigas. Conan, qui a toujours quelque chose à dire.
Ouais, moi je rejoins ce qui a été dit précédemment. Il faut qu'on dise.
Proisy revient.
Bon. On va continuer à être là, justement, on a la rage d'avoir échoué, mais justement essayer d'exploiter cette rage pour pousser encore plus en avant. Quoi.
Donc pour rebondir,
et j'espère que nos dirigeants actuels sont dans le même état d'esprit, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est pas pleurnicher sur cet échec.
Je demande dans quel état d'esprit doit être Ginesté, parce que ça doit pas être...
Il doit pas être bien.
Il a pas dû passer un bon week-end.
Non.
C'est sûr que personne
n'a passé un bon week-end.
Aucune personne n'a passé un bon week-end. Moi, pareil, j'ai pas de conclusion particulière. De toute façon, non, mais l'idée d'être supporter d'un club, c'est même pas de se dire tiens, on va plus être supporter l'année suivante parce que le club est
mal,
etc. Donc nous, de toute façon, on est supporter, on le restera. Et ce qu'on espère quand même, c'est que peut-être tout le monde dans le club soit supporter, que ce soit les joueurs, que ce soit les dirigeants, que ce soit la caissière, que ce soit les guichetières, tout ça. Il faut un club de supporters. Et je pense que si on était tous finalement supporters, bon, ok, on se tirerait quand même dans les pattes, mais au moins on penserait peut-être au bien du club avant de penser aux intérêts personnels. Donc voilà. Soyez messieurs les dirigeants, messieurs les joueurs, messieurs les employés, messieurs les apprentis du Racing, soyez supporters de ce club mythique qui fait vivre des tas d'émotions. On l'a décrit assez pendant cette heure
40 presque de débats et de passion tout simplement autour du Racing. Donc voilà, on conclut là-dessus. Donc,
allez Racing.
Allez Racing, en D2, en D1, en National, partout, en Coupe d'Europe.
Tu mets la Kings maintenant.
Je mets la Kings et surtout, allez Racing. Radio Stube.